With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mais qu'est-ce qui peut bien te motiver pour aller courir 110 km dans la nuit en plein hiver? C'est la question que j'ai posée à mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de lifestyle sportif, de trail aussi, de tout le running sous toutes ses formes, hein, mais qui va plus loin, hein, c'est vraiment comment nous nous sentons bien dans notre corps, dans nos baskets, dans notre tête, comment nous retrouvons aussi la ligne, les formes, comment nous retrouvons des objectifs, comment parfois nous changeons de vie, comment nous évoluons grâce à la course à pied, grâce au sport, grâce au mouvement, hein, c'est vraiment ce que j'ai découvert moi grâce à la course à pied, et vous savez hein, que j'apprécie particulièrement de parler de ces sujets-là. Et c'est le type de questions, de sujets que nous avons abordés dans cette nouvelle type d'épisode que j'appelle aujourd'hui le dernier ravito. Mais d'abord, je vais attaquer par mes traditionnelles petites actus et remerciements. Alors d'abord, un merci à ceux qui financent le podcast par biais de Patreon. Vous faites patreon.com/km42. C'est un moyen de financer le podcast. C'est aussi un moyen de financer finalement ma vie à moi, mon projet de devenir sportif. Ça fait vraiment partie d'un projet de vie et le financement par le biais de Patreon en fait partie. Alors, l'avantage que vous avez quand vous devenez patriote, patron, c'est que vous avez les épisodes du podcast sans la pub, mais aussi des épisodes privés du podcast, c'est-à-dire que tous les lundis, je vous fais mon journal d'entraînement dans lequel je vous raconte exactement ce que j'ai fait dans la semaine, quels sont les entraînements, avec les détails, on va un peu plus loin dans les détails. Et puis, je vous donne aussi un petit peu les exclusivités, je vous dis ensuite sur quoi je travaille, sur ce que je vais lancer, sur quoi j'avance, et puis je donne vraiment des choses en exclusivité. Donc, vous faites patreon.com/km42 et vous avez la page qui vous explique tout ça. À partir de 1$, parce que c'est $1 encore pour l'instant, par épisode, bah vous avez accès à ce nouveau monde, à cette nouvel aspect de Kilomètre 42. Je vais aussi bien sûr remercier ceux qui laissent des commentaires sur Apple Podcast. Je vous remercie, notamment aujourd'hui je vais remercier Jules Balt qui a laissé un commentaire en disant « Très bon podcast avec des sujets très intéressants et diversifiés, j'ai toujours du plaisir à l'écouter ». Merci beaucoup à toi Jules Balt pour ton commentaire et merci à tous ceux qui laissent des commentaires et merci aussi à ceux qui font des dédicaces notamment sur Instagram parce que vous savez que c'est un des moyens qui permet aussi de faire connaître le podcast, c'est de faire une petite dédicace. Alors le principe il est simple, hein, c'est que quand vous écoutez le podcast, que vous soyez en voiture, en train de courir, que vous soyez à la maison, que vous soyez sur votre terrasse, que vous soyez sur les chemins, que vous soyez sur une piste, où que vous soyez, quand vous écoutez le podcast ou quand vous allez courir, ce que vous faites, c'est que vous me faites une petite photo, une petite story, et vous m'envoyez ça tout simplement par le biais des stories. Hein, vous me taguez @BertrandSoulier, vous mettez le hashtag KM42podcast, tout simplement sur vos stories, et moi je repartage ça, comme ça on montre à tout le monde comment on court, comment on prend plaisir à courir. Hein, c'est un petit peu notre aspect communautaire comme ça qui se développe, et en fait, on véhicule hein, notre bonheur de courir, notre bien-être de courir, notre volonté comme ça de parcourir les chemins, les routes et les pistes pour aller trouver je ne sais quoi. C'est un petit peu le sujet, vous voyez, de cette nouvelle série d'épisodes que j'appelle donc le dernier ravito. Et le dernier ravito, vous savez, c'est exactement quand vous avez vécu des courses, si vous avez participé à des courses, vous savez, vous arrivez à la fin de la course, il y a toujours, on aurait pu appeler ça la dernière bière, on aurait pu appeler ça la bière après l'arrivée, on aurait pu appeler ça plein de noms, mais je voulais pas un nom, vous voyez, qui soit chargé avec un terme d'alcool ou quoi que ce soit, parce que moi, par exemple, je bois pas vraiment beaucoup d'alcool après, donc ça peut marcher aussi si vous buvez des bulles, si vous buvez une boisson d'effort, mais vous savez, c'est ce moment qui est après la course, après l'arrivée, comme ça, tout le monde est détendu, tout le monde est arrivé, alors certains sont plus fatigués que d'autres, certains sont arrivés longtemps après les autres, mais vous savez, nous sommes tous réunis comme ça, après la ligne d'arrivée, et on boit un petit coup, on mange un petit coup, on prend un bout de banane, un bout de chocolat, des fois il y a du fromage, des fois il y a des petites tuques, il y a des choses comme ça qui sont sur la table, et comme ça on discute avec des gens que des fois on croise régulièrement, puis des fois des gens qu'on ne connaît pas du tout, et on se met à refaire le monde du running. Alors comment s'est passée ta course, ah, t'as fait ça, ah ben tiens cette course elle me rappelait ça, elle me rappelait cet événement là, elle me rappelait là, ah mais dis donc au fait t'es de telle région, t'as fait ça, t'as fait cette course là, tu l'as déjà faite, mais pourquoi t'as fait cette course là, et pourquoi t'es allé courir la Saint-Élion, la 70 km comme ça dans la nuit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Vous voyez tous ces genres de discussions que on peut avoir comme ça après les courses, et j'ai envie de reproduire cette ambiance là. Alors moi j'ai pas sorti les cacahuètes cacahuètes, les tuques, la petite bière ou quoi que ce soit, parce qu'on a fait ça à distance. Mais j'ai invité Thibaut à venir discuter de ça avec moi. Donc, on a discuté de running. Alors Thibaut, vous le connaissez peut-être pas, vous pouvez le connaître si vous suivez son compte Instagram, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, mais en fait Thibaut, on a un profil qui se ressemble un petit peu, Alors sauf que lui il s'est mis à courir des plus grandes distances et que j'ai l'impression qu'il veut toujours allonger les distances, on en a parlé dans l'épisode, on court à peu près à la même vitesse, il a fait du marathon, mais il a fait aussi des courses comme la Saint-Élion, il fait du trail avec de dénivelé, etc. Et en fait on a discuté de tous ces aspects-là, comment il s'entraîne, comment il court, quel est son parcours, pourquoi il court, qu'est-ce qu'il recherche dans la course à pied, qu'est-ce que ça lui apporte, comment il s'entraîne, est-ce qu'il s'entraîne en club, est-ce qu'il s'entraîne tout seul, comment il fait, comment il s'organise, il est papa, il a un travail, etc. Donc c'est vraiment la discussion que nous avons comme ça, là, entre coureurs, à l'arrivée d'une course. On discute un petit peu de tout et de rien, mais tout autour de la course à pied. Et donc, on va découvrir, par le biais de ces rubriques, j'ai d'autres invités comme ça en tête, tout simplement les pratiques des autres, de voir un petit peu comment les uns les autres, on peut s'inspirer pour progresser, pour avoir des bonnes idées, pour se dire, finalement, ce qui me semblait peut-être impossible à faire, parce que par exemple, peut-être que courir la Saint-Élion vous semble quelque chose d'impossible, vous dites peut-être qu'il faut des heures d'entraînement, des centaines d'heures d'entraînement, etc., qu'il faut courir 5 fois par semaine pour arriver à le faire, vous allez voir par exemple avec Thibaut, l'exemple de Thibaut, que quelque part, il n'a pas un volume d'entraînement qui est extraordinaire, mais il va nous expliquer finalement comment il compense, quelles sont les ressources qu'il va chercher, comment il va les chercher, et justement pourquoi la course à pied lui permet de faire certaines choses, pourquoi il va les chercher dans la course à pied, et c'est vraiment un épisode que j'ai pris un grand plaisir à enregistrer, d'une part parce qu'avec Thibaut, on échange très régulièrement par le biais d'Instagram, et donc on discute régulièrement, etc., et on voit un petit peu ce que font les uns les autres. Puis en fait, ce que je trouve très intéressant dans ce genre d'épisode, tout simplement, c'est d'aller à la rencontre de coureurs lambda. Le coureur lambda, vous voyez, c'est pas celui qui est payé pour courir, c'est pas celui qui est super sponsorisé, c'est pas celui dont c'est le travail, c'est pas celui qui court depuis toute sa vie comme ça, c'est pas celui qui finalement a peut-être oublié l'esprit du débutant, a oublié l'esprit de celui qui n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, de celui qui se demande comment il va rentrer la course à pied dans un emploi du temps où il y a du travail, la famille, etc. Et en fait, c'est le coureur lambda, c'est nous tous, et nous sommes tous réunis dans cet univers, et c'est pour ça que je veux faire des épisodes justement avec vous tous. Donc voilà, on inaugure la série avec Thibaut, je vous laisse écouter maintenant cet épisode, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec de nouveaux conseils, de nouveaux invités. Salut Thibaut, comment vas-tu ?
Salut Bertrand, ça va bien et toi ?
Ça va très bien. Alors, on va appeler cette rubrique, t'inaugures une nouvelle rubrique, on n'a pas trouvé de nom encore, on va appeler ça le petit verre de récup après la course, c'est-à-dire que quand on refait un petit peu le monde, alors, bon, on fait pas le monde après une course parce que y a pas de course en ce moment, on enregistre, nous sommes le 25 juin, je sais pas où tu en es toi dans la course, le confinement, comment t'as géré tout ça ?
Écoute, tu l'as bien dit là, c'est une vraie année blanche. Cette année, j'ai eu un dossard. J'ai fait le trail de Cognac, parce que je suis originaire de Bordeaux, donc c'est pas très très loin. Donc ça a été mon seul dossard officiel cette année. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de dossards annulés. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais Berlin notamment, qui me tenait très à cœur, le marathon du Médoc également. Et le Grand Trail de la Vallée d'Ossau que je fais chaque année. Donc c'est trois grosses courses qui sont annulées. Donc j'essaie de me projeter là sur la fin d'année, peut-être avec un dossard près de Carcassonne. Mais oui, c'est vraiment pas une année évidente. Et par rapport au confinement, alors moi j'ai fait le choix de respecter la règle et de courir avec ce qui nous était autorisé, à savoir la petite heure dans un rayon serré de chez nous, voilà. Mais pour essayer de m'entretenir, sans rien faire de particulier, mais vraiment juste pour garder le rythme. Et puis l'envie était là, donc j'avais aussi besoin de me vider la tête. Le confinement n'a pas été une période facile, et du coup voilà, j'en ai profité pour m'entretenir.
Alors, ce qui est amusant, c'est que je t'avais lancé la première invitation. En fait, c'est la troisième fois qu'on essaie d'enregistrer, mais comme quoi... alors, la première fois, il y avait une gastro du côté de ma fille et de toute la famille. Puis la deuxième fois, et l'autre fois, je me rappelle plus ce que c'était. Et alors, à ce moment-là, tu étais dans des préparations de courses très diverses et variées. C'est ce qui était super intéressant parce que si cette année, c'est une année blanche, l'an dernier, moi, j'ai l'impression que tu as cumulé un nombre de kilomètres qui est quand même assez impressionnant. Alors, je sais pas si tu as une statistique, on va dire, on va pas chercher au kilomètre près, mais... pour donner un ordre d'idée à peu près, quoi. Combien t'as fait de courses, combien t'as fait de kilomètres environ, et donne-nous un petit peu les courses que tu as pu faire l'an dernier.
Alors en fait, ce qui est paradoxal dans ma pratique, c'est que je fais effectivement beaucoup de courses. Généralement, j'accroche pas mal de dossards sur une année, mais j'ai pas un kilométrage extrêmement élevé en termes d'entraînement. Bon, après, il y a beaucoup de raisons à ça, parce que déjà, ben, la vie professionnelle fait que le temps me manque, et puis je suis papa de deux enfants en bas âge, hein, 5 ans et 1 an. Et du coup, effectivement, le temps en semaine peut manquer. L'année dernière, je dois avoir quelque chose comme 7, 8, 9 peut-être courses, mais des grosses courses. Voilà, il y a trois marathons, il y a une Saint-Élion. Donc oui, il y a des courses avec du kilométrage élevé, mais paradoxalement, peu de kilomètres au final, puisque sur l'année, je crois que je dois cumuler 1 500 km au global. Donc ce qui n'est pas énorme non plus, mais voilà, c'est paradoxal dans ma pratique.
Oui, alors c'est ça qui est amusant, c'est que finalement, tu dis trois marathons, donc bon là on a 120 km, une Saint-Élion, c'est combien de kilomètres?
76.
76, donc on a 200 km. Sur les 1 500, déjà, ces quatre épreuves en représentent une bonne partie. Alors 1 500, c'est plus faible que ce que j'ai fait moi, alors que moi, j'ai pas fait beaucoup de courses, mais je fais plus d'entraînement, parce que moi, j'ai les séances d'entraînement club, etc. Donc c'est là où c'est intéressant, on a tous nos pratiques, on a tous nos habitudes, et effectivement, tu le dis, en plus, avec deux enfants, le boulot, etc., on n'arrive pas toujours à placer les choses. Mais ce qui était, ce qui m'a, j'ai trouvé ça quand même assez marrant, tu vois. Alors, comment on se lance dans un truc genre la Saint-Élion, tu vois? Parce que moi, vu comme ça, tu vois, c'est pas la genre de course qui m'attire. Qu'est-ce qui fait que t'as voulu faire la Saint-Élion, par exemple?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, j'ai commencé la course à pied par, comme tout le monde, un 10 km. Puis on est venu rapidement au semi-marathon. Et après le semi-marathon, ça suffisait toujours pas. Et tu sais, c'est une sorte d'engrenage. Tiens, est-ce qu'on peut pas aller allonger un peu la distance et pourquoi pas un marathon? Donc le premier que j'ai fait, c'est Bordeaux, puis Paris. Et ensuite, on se dit, bon, ben voilà, on a fait le marathon, mais qu'est-ce qu'il y a après? Et bien après, il y a la course de l'Archange au Mont-Saint-Michel, il y a 55 km. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Et à chaque fois, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment mon corps va réagir à des distances toujours plus élevées? Et alors effectivement, la Saint-Élion, ça a été. En fait, c'est un trail qui est mythique. Quand tu fais du trail, à un moment donné, tu te poses la question de est-ce que je n'irai pas me frotter aux éléments de la Saint-Élion, puisqu'au final. La Saint-Élion, c'est assez particulier. C'est pas vraiment le kilométrage qui pose souci. C'est plus les conditions climatiques qui sont dantesques. Et cette année a été une véritable Saint-Élion dans ces conditions extrêmement compliquées. Et du coup, post Saint-Élion, on se pose la question de et après la Saint-Élion, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a fait 76 km, est-ce qu'on n'irait pas toucher le 100 km? Et c'est la réflexion que j'ai en ce moment, puisque le Carcassonne, comme je te disais en préambule, ce serait un 101 km, avec une nuit du coup globale sur place.
Oui, alors là, on touche
Donc tu vois, chez moi, en
d'autres.
fait, c'est la surenchère.
Ouais, on touche d'autres distances, hein. Moi, j'ai quelqu'un au club qui a fait du 140 ou du 170 km l'an dernier. Avec une nuit, on a été surpris, ils l'ont fait relativement vite, cette histoire-là. Parce qu'on est finalement, il y a des. À notre niveau, on en parlera, hein, sur les histoires de vitesse, etc. Mais c'est vrai que ça paraît être des distances qui sont. La Saint-Élion, combien de temps tu mets pour la faire?
Alors moi j'ai mis 11h40.
11h40. Et c'est effectivement les conditions. Alors moi je suis en Auvergne, donc les conditions Saint-Étienne, c'est pas très loin de la maison, c'est 1 heure de route, non 1 heure et demie on va dire. Donc on n'est pas loin, vraiment on n'est pas loin. Donc je vois très bien les conditions. Puis l'an dernier c'est vrai qu'il y a toujours le froid parce que c'est l'hiver, c'est le début de l'hiver qui arrive ou en tout cas la fin de l'automne. De nuit, moi, enfin c'est vrai que sur cette genre de course, et je connais beaucoup de gens qui l'ont fait, et c'est vrai que ça fait partie des courses mythiques. Mais je me dis, dans les courses mythiques, il y en avait d'autres. Tu vois, enfin, pourquoi les prendre celles de nuit, tu vois rien, tu sais que tu vas te cailler, que ça va être boueux. Enfin, il y avait pas un truc plus sympa dans ton coin qui était aussi mythique?
Écoute, j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse à ça, mais je t'avoue qu'il y a un côté challenge qui est intéressant. C'est voilà, de quoi je suis capable, qu'est-ce que j'ai envie de me prouver à moi-même, comment je peux réagir dans ce genre de situation. Voilà, je crois que c'est un moteur chez moi au niveau de la course à pied. Et d'ailleurs, voilà, le paradoxe du peu d'entraînement avec ce genre de course-là, il est là aussi. C'est c'est se prouver à soi-même qu'on est capable de faire ce genre de choses, et pour autant, on néglige entre guillemets le volume à l'entraînement. J'ai toujours été câblé comme ça, je fonctionne comme ça, et je cours beaucoup avec mon frère qui est un peu pareil. On est un petit peu là-dedans aussi. Et pour schématiser ça aussi, j'ai jamais fait de vrai prépa, tu vois. Par exemple, quand je fais mon premier marathon à Bordeaux, alors je sais, pour t'écouter régulièrement, je sais que toi tu es sérieux dans tes préparations, t'as fait ça vraiment de manière sérieuse. Moi, une prépa 12 semaines, j'en ai jamais fait. Je suis allé courir quand j'en avais envie, je suis allé alors je fais partie d'un club comme toi qui m'amène aussi de la régularité, mais pour autant j'ai jamais calé mes séances sur une prépa de marathon. Et pour autant, ça s'est toujours très bien passé. Donc je touche du bois pour que ça continue à bien se passer. Mais ouais, dans mon fonctionnement, moi, du rapport que j'ai avec la course à pied, j'ai encore du mal à structurer ma pratique. Et pour autant, je ne m'empêche pas de faire des courses de plus en plus compliquées.
D'accord. Depuis combien d'années tu cours, en fait ?
Alors moi, j'ai un passé de handballeur. Hein. J'ai fait 10 ans, un peu plus même, 12 ans de handball. Et ensuite, je suis venu à la course à pied. Ça doit faire, je dirais, 7 ans que je fais de la course à pied maintenant, de manière relativement régulière.
D'accord. Ouais, bon, après, le handball, c'est un terrain qui est quand même assez petit. Tu cavales beaucoup, mais là, d'un coup, tu passes sur des distances 70 bornes, etc. J'ai envie de dire, ça ressemble pas, en fait, à deux sports où tu as les mêmes qualités, en fait. Enfin, après, je peux me tromper.
Non, tu as raison. Tu as raison. On est sur un effort violent au handball avec des accélérations rapides, avec un cardio qui va monter très vite. Moi, effectivement, de ce que je vois de mon corps, en tout cas de ce que j'ai, des sensations que j'ai, je suis plus câblé pour le long. Je suis très mal à l'aise sur un 10 km. D'ailleurs, j'ai pas des temps exceptionnels sur 10. Mais par contre, je suis en capacité de résister assez longtemps à l'effort. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu paradoxal aussi par rapport au handball, où j'avais un bon niveau. Hein, j'étais loin d'être mauvais. Mais la course à pied sur le long me correspond beaucoup plus.
Oui, alors c'est ce que j'allais te dire d'ailleurs, tu as commencé à dire que tu n'es pas allé sur un 10 km. Est-ce que tu as des distances, puisque comme tu as fait à peu près toutes les distances jusqu'à 76, hein, après on en reparlera quand tu auras fait 100, mais est-ce que tu as une distance sur laquelle tu te sens plus à l'aise, ou t'as senti, tu dis ça c'est vraiment un truc où je me sens le mieux, tu vois, parce que c'est une discussion l'autre jour que j'ai écouté et tout, il y a des gens par exemple qui disent mon truc à moi, c'est ce qu'on disait avec Cécile Bertin, disait le marathon c'est ma distance par exemple, ou au-dessus, tu vois. Est-ce que toi tu as une distance où finalement, tu te dis, ah, là, vraiment, c'est là où je me sens le mieux.
Alors, une chose est sûre, le cours, c'est pas pour moi. En tout cas, je me sens pas forcément... Pourtant, avec le club, on en fait. Hein. On fait des 10 pour avoir quand même des temps de référence pour essayer de travailler un petit peu. Mais le 10, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. J'avoue que le semi-marathon, c'est une distance qui est relativement agréable parce que c'est pas trop long, mais c'est quand même assez long. Et tu peux quand même envoyer. Voilà, donc il y a ce rapport-là entre distance-vitesse qui me plaît bien sur le semi, mais j'avoue que le marathon, ça reste quand même une distance que j'aime beaucoup. Et si ça peut être un marathon en version trail, c'est encore mieux. Parce que j'ai fait le marathon d'effort, par exemple, qui est dans le Périgord. Voilà, c'était fantastique. C'est 42 km, mais en mode trail. Et c'est vraiment que là, tu peux vraiment kiffer avec une distance qui est très appréciable et un environnement qui est très appréciable.
Ouais, et c'est vrai que, alors en plus cette histoire entre le trail et la route, hein, c'est vraiment très différent, parce que sur le trail, je sais pas combien il faisait de dénivelé ton trail à peu près là.
Dans le Périgord, on était à 3500.
Voilà, donc on n'a pas du tout la même relation en fait au chronomètre, notamment à la vitesse, on gère plus du tout les choses de la même manière, puisque sur route, on a une tendance à se dire, bon, il faut que je cours à telle vitesse. Et sur trail, on a une tendance à dire, faut que j'arrive. Je sais pas comment tu vois. Comment tu vois la différence moi, sur trail, je te raconte une anecdote, parce que sur trail, pour mon premier trail, c'était une ancienne collègue qui me dit, écoute, moi, je regarde pas ma vitesse, je suis autour de 9 km/h. D'accord. Ouais. Et elle me dit, quand ça monte, on marche. Quand c'est plat, on court. Et quand ça descend, eh ben, on fait comme on peut. Alors, je ne sais pas toi, comment tu vois les choses.
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement. Moi, c'est pareil. En fait, j'ai rarement de temps de référence sur les trails sur lesquels on va s'engager. Un 42 km dans le Périgord avec 3500 dénivelés positifs, je pars sans aucune appréhension de quel temps je vais faire. Donc effectivement, ça change vachement le rapport que j'ai avec la course, parce qu'au final, on va plus s'écouter les sensations. Si on est dans le dur, on va plus marcher. Si on est bien, on va essayer de plus trottiner dans les montées. Donc effectivement, là, on va vraiment avoir un moment d'adaptation. Alors que parallèlement à ça, si tu te lances sur un marathon comme Bordeaux ou Paris, bah, tu sais que tu as un temps que tu veux atteindre. En tout cas, tu t'es mis un objectif 4h30, 4h40, que sais-je, 3h40 même. Et du coup, bah là, pour le coup, tu vas te mettre une allure que tu vas garder tout du long. Et c'est là aussi où la difficulté va arriver, c'est que bah, tu vas te mettre dans le dur parce que ton allure, tu dois la conserver. Donc effectivement, le trail a ce côté-là de je m'adapte au fur et à mesure, que j'aime bien, que j'apprécie quand même beaucoup, plus que de me mettre dans le dur parce que je me suis imposé un chronomètre.
Et je crois que c'est une relation qui est différente. Hein. C'est vrai que y a des gens qui n'aiment pas du tout le chemin. Moi, je ne sais pas comment c'est au club, toi, si vous avez des mélanges comme ça, des pratiques. Nous, au club, on a des gens qui sont des purs routards, j'ai envie de dire, qui font beaucoup de routes, d'autres qui font que du trail. On avait même des qui étaient très, très, très bons trail. On en a qui font un peu des deux, tu vois, mais des choses comme ça. Et, mais il y en a qui adorent, tu vois, ce chrono, qui, une fois qu'ils sont réglés dessus, tu as l'impression qu'ils peuvent partir pour 42 bornes sans rien regarder. C'est une discussion que avec quelqu'un qui devait faire Albi avec moi, Biom et moi, de toute façon, une fois que je suis lancé, je ne regarde plus. Et c'est vrai qu'il est lancé, mais par contre, on le voit très peu sur les chemins. Et on a l'impression quand même que c'est des pratiques qui sont un petit peu différentes dans l'approche des choses.
Oui, oui, tu as raison. Et dans le club, on pourrait même rajouter une autre catégorie de coureurs qui sont les pistards. Puisque nous, on a aussi des personnes qui viennent vraiment de l'athlée pur, du 400 et voilà. Et donc, du coup, ces personnes-là adorent la piste. Alors, nous, le mercredi, on a une séance de fractionnés qu'on fait sur piste. Et là, pour eux, c'est leur terrain de jeu, c'est le paradis. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Pour autant, j'avoue que le mercredi, j'apprécie quand même ma séance de piste parce que je sais qu'on y travaille beaucoup. On capitalise énormément sur ce genre de séance. Et ça vient diversifier la pratique. Et c'est ça aussi qui me caractérise, c'est que je touche à tout en termes de course à pied. Et c'est aussi ça que j'apprécie. Le mercredi, je suis sur la piste. Le vendredi, je suis sur les chemins. Et pour autant, j'irai faire Berlin en marathon, qui est un marathon bitume avec un temps de référence qui, j'espère, là-bas sera bon. Mais voilà, c'est aussi ça qui me caractérise dans la course à pied, c'est que je ne fais pas de choix. Je ne fais pas de choix et je prends ce qui vient au fur et à mesure. Et je prends la pratique dans sa globalité. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans la course à pied, c'est qu'on court, mais on court de manière différente sur plein d'aspects.
Oui, mais on a une pratique qui est à peu près similaire, parce que moi, c'est vrai que la piste, alors au début, les premières séances de piste, je comprenais pas trop ce qu'on allait faire à tourner comme ça, comme des lapins. Et c'est vrai, et alors ce que tu dis sur les pistards, moi, il y en avait l'an dernier quelqu'un qui faisait du 400, sa spécificité, le 400. Et puis, on avait un autre qui faisait du 800. Ouais. C'est des marteaux. Enfin, je veux pas dire, hein, si vous, ceux qui écoutent le podcast, si vous êtes des coureurs de 400 ou 800, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais c'est quand même des marteaux, quoi. C'est-à-dire que la douleur dans laquelle ils sont capables de se mettre, etc. Et alors les suivre, quand on aura une séance de piste, on a l'impression que nous, on est au bout de notre vie, mais eux, plus ils sont au bout de leur vie, et plus on a l'impression qu'ils vont encore accélérer. Et un jour, je sais pas comment ils sont chez toi, les pistards, ce gars-là m'a dit, écoute, mon entraîneur, il a une tactique qui est simple, il me dit, sur 800, c'est le premier tour à fond, et le deuxième tour encore plus à fond.
C'est ça. Et en plus, ce qui est encore plus marrant, c'est quand tu en parles avec ton entourage, quand tu dis que tu as fait la Saint-Étienne, on te dit, mais d'un coup, tu es capable de... Voilà, de résister à des douleurs hyper longtemps et tout ça, et voilà. Mais tu dis oui, mais bon, vous savez, ceux qui font du 400, ils sont encore plus fous que moi, parce qu'ils se mettent minables sur une période qui est encore plus. Enfin, vraiment, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans cette pratique-là, tu peux te faire mal, mais sur n'importe quelle distance. Et c'est vrai qu'avec le club, on s'est amusé, tu vois, à faire pendant post-confinement des 2 km à fond ou quoi, pour voir un petit peu, pour se jauger après le confinement. Et c'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Ce genre de distance-là, c'est extrêmement douloureux. Et je me revois à la Saint-Élion, parfois même souffrir moins que sur un 2 km par chez moi. Donc c'est ça aussi qui est très, très intéressant.
Ouais, et c'est vrai que ce que les gens... Parce que souvent, en fait, et moi, c'est un truc, tu vois, c'est une question que je vais poser à tous ceux que je vais inviter maintenant sur le podcast. C'est ces histoires de distance de prédilection et même par à quelle distance faudrait commencer. Et on a l'impression qu'on va se dire, oui, je vais faire un 10 km parce que c'est une distance qui semble accessible. Et qui est vrai, qui est accessible hein, en distance, etc. Mais en fait, c'est ce que j'avais vu dans les stats, c'est l'une des distances où il y a le plus de défaillance. Parce qu'un 5 km, bon, tu te mets, t'es mal, il te reste 1 km ou 2, bon, ça le fait, quoi. Mais un 10 km, à partir du 3, déjà, ça pique fort, quoi.
C'est ça. Et souvent, c'est ça qui est horrible avec le 10 km, c'est que c'est une distance sur laquelle, au bout du troisième, comme tu dis, ou du quatrième, tu es déjà dans le rouge. Et pour autant, il t'en reste encore 5, 6, et qu'il va falloir s'accrocher, quoi. Et c'est vrai que cette distance-là, elle est particulière. Et pour autant, je me souviendrai toujours que la première question que m'a posée mon coach quand je suis arrivé au club, c'est sinon, sur 10, tu vaux combien? Je crois que c'est la question que tous les coachs posent à tout le monde et que moi maintenant, quand je rencontre un coureur, je lui dis, ah, et au fait, toi, sur 10, tu vaux quoi? Ça me permet quand même à un moment donné de jauger la personne et de me dire, ah oui, ok, 38, c'est costaud, quoi. Ou à l'inverse, voilà, 45, ah ben voilà. Et c'est vrai que cette question-là, elle est marrante et on la pose à chaque fois que quelqu'un arrive au club pour pouvoir jauger. Et je trouve que le 10, c'est parlant quand même. C'est une distance qui trompe pas.
Ouais, alors sur 10, tu vois quoi?
Exactement. Alors moi sur 10, bah, écoute, je vaux mon record c'est 44, donc c'est 43,02 que
D'accord,
j'ai fait
bah.
post-confinement.
Oh, bah t'es plus rapide que moi. Mais moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de 10. J'ai quelqu'un du club qui m'a un jour me dit, ouais, mais toi, tu descends en dessous des 40 en 10. J'ai regardé, je vais, attends. Attends, c'est le club de ceux des vrais coureurs qui sont en dessous des 40, etc. Et il y en a une discussion un jour, l'entraîneur qui disait. Il disait, alors, au début, on s'est dit on descend en dessous des 40, et puis en dessous des 38, et 37, et 36. Mais il dit, le problème, c'est qu'en vieillissant, ça devient de plus en plus compliqué. Et nous, on a quelqu'un au club qui est à 32, tu vois, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un monde d'écart, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on court pas du tout les mêmes choses, et il est à 32, hein. C'est-à-dire qu'encore au-dessus, il y en a qui sont encore plus rapides, largement plus rapides que ça. On n'a pas l'impression qu'on court de la même manière.
Ouais, c'est sûr, c'est incroyable. Et je me dis, moi aussi, on me le dit souvent, on me dit, écoute, t'as les capacités de descendre en dessous des 40. J'y mets déjà, t'es en 43, déjà dans l'état dans lequel j'ai terminé. Je me dis, mais pour aller chercher 3 minutes, c'est énorme, c'est énorme. Ça demanderait, et là, pour le coup, tu vois, c'est là où ça demanderait une prépa spécifique, vraiment concentrer une saison là-dessus. Et ça, je sais pas faire, parce que le moindre dossard qui va tomber, mon frère va m'appeler, va me dire, hey, t'as vu, il y a ce petit trail qui a l'air sympa, là, ça te dit pas de t'engager? Ok, mais ça veut dire que du coup, je serai jamais capable de garantir une prépa ou une année sérieuse pour aller chercher un temps sur 10. Et puis, comme tu l'as dit, hein, l'âge passe aussi, hein, j'ai 36 ans. Les perfs, elles tombent, en tout cas sur des courses rapides, elles tombent maintenant, quoi. Dans quelques années, il sera hors de question d'aller chercher moins de 40. Donc bon, écoute, je crois qu'il faut accepter de rester à 43, ce qui me va très bien, hein, d'ailleurs. Je suis très très content avec ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça.
Alors, si je peux te rassurer, quand même, j'ai quelques personnes au club qui, bon, qu'on est passé, hein, quand on fait de l'Ironman, même pour certains, etc., qui, quand on regarde leur temps sur 10 et sur 5 km, c'est assez affolant, hein. C'est-à-dire que c'est presque les plus rapides du club. Il y a des petits jeunes qui sont extrêmement rapides. Donc là, c'est, mais tu vois, ils ont du mal à les suivre, mais là, vraiment, non, non, ils arrivent à descendre extrêmement bas, hein, en vitesse, ce qui est assez impressionnant d'ailleurs. Et je crois qu'en fait, il y a une, tu vois, ces 3 minutes, je crois que c'est aussi mental, je pense, qu'il y a quelque chose qui se joue sur ce plan-là, en fait.
C'est sûr, c'est sûr. Et effectivement, hein, quand tu commences à être dans le rouge au bout du cinquième, je pense que tu as les capacités physiques encore de continuer. La preuve, hein, souvent, c'est ce qui se passe, mais c'est la tête qui va te jouer des tours. Là, j'ai juste envie de te dire, écoute, ralentis un peu, économise-toi. Et c'est là où il faut être très très fort, quoi. Et la tête, en fait, au final, elle joue sur 10, mais elle va jouer sur semi-marathon. Et alors, marathon, n'en parlons même pas. Approchant les 30 km, la tête va jouer un rôle prépondérant. Et après, si on fait le parallèle avec la Saint-Élion dont on parlait tout à l'heure, la tête, elle joue tout le temps aussi parce que ton corps te dit qu'il a froid, qu'il a froid, qu'il a froid et qu'il a envie de se mettre au chaud et de s'arrêter. Bon, ben là, il n'y a pas de problème physique en soi. C'est vraiment que c'est la tête à un moment donné qui te joue des tours, quoi.
Oui, mais c'est des approches, hein, qui sont différentes parce que c'est vrai que finalement, on va pas chercher les mêmes ressources non plus, hein. C'est-à-dire que là, sur la Saint-Élion, tu sais que tu pars pour des heures et des heures. Sur un 10, tu sais que tu pars pour 40 minutes, mais à fond. Et pourtant, dans la tête, dans les deux cas, elle va avoir des comportements entre est-ce que j'économise, j'économise pas, etc. Puis il y a toujours cette notion, on a l'impression qu'au dernier kilomètre, on est frais comme des gardons parce que on se dit, mais en fait, j'aurais pu aller plus loin, mais. C'est notre cerveau aussi, hein, qui est programmé pour nous maintenir en état d'arriver frais comme un gardon.
C'est ça, exactement, exactement. Et effectivement, au fur et à mesure des années de pratique, bah, tu arrives quand même à te connaître et à savoir ce que ta tête est en train de te dire ou ce qu'elle est en train d'essayer de te dire. Et c'est vrai que c'est là aussi où il y a un gros travail de mental. Voilà. Et j'avoue que aller chercher des courses de plus en plus longues, c'est aussi pour aller explorer cette partie mentale plus que physique, en fait, parce que des pépins physiques, j'en ai eu, et j'en aurai sûrement d'autres, mais mentalement, à explorer un petit peu ce qui se passe en course, même de nuit, tu vois, la tête qui commence à avoir envie de dormir, ou bon, bref, c'est ça qui m'intéresse aussi dans la pratique. Mmh. Dans le long, en tout cas, il y a quelque chose qui m'intéresse.
Oui, mais tu sais, c'était la discussion qu'on avait avec Cécile Bertin, qui disait aussi que il y a des courses qu'elle a regretté d'avoir abandonnées parce qu'elle sait que finalement, avec l'expérience, 5 ou 10 kilomètres plus tard, elle aurait été bien mieux, ça serait reparti. C'est vrai que ça fait partie des approches. Mais comment on travaille ce mental finalement? Il faut aller scoltiner la course ou t'as des, je sais pas, peut-être tu fais de la méditation, tu fais de la visualisation? Parce que l'autre jour j'ai eu un sujet en disant, il y en a qui font de la visualisation. Alors, moi je suis nul en visualisation, mais peut-être que toi tu fais de la visualisation, t'as une technique pour préparer là-dedans.
Alors professionnellement, tu vois, je suis directeur de magasin, donc je suis manager, je gère des équipes. Et on a aussi beaucoup de formations par rapport à ça, et notamment effectivement des techniques de visualisation. Alors je pense que je visualise beaucoup mes courses, en tout cas je me vois souvent, je me projette souvent en train de passer la ligne d'arrivée. En tout cas chez moi, l'abandon, ça n'a jamais été une option. Même à la Saint-Élion par exemple, on a été vraiment dans le dur une petite partie de la nuit. Voilà, c'était dur, mais l'idée d'abandonner n'est jamais venue. Donc ça c'est quelque chose qui pour moi est hyper rassurant, parce que je m'étais déjà mentalisé sur le fait de passer la ligne. Donc ça c'était une première chose. Et c'est vrai que je crois que je fais un parallèle avec mon monde professionnel où voilà, je gère des équipes, je les motive, je les mentalise en permanence sur l'objectif à atteindre, et je projette ça sur ma pratique à moi. Et j'essaye tous les jours, quand je fais de la course à pied, d'être toujours plus fort mentalement. Je vais te donner un exemple concret, c'est que pendant le confinement, j'ai pris la décision de faire un marathon dans mon allée. Chez moi, j'ai une allée qui fait 110 mètres. Et du coup, j'ai couru un marathon dans l'allée. Donc, j'ai fait 380 boucles. Alors, on a entendu plein de personnes qui ont fait des marathons sur leur balcon, etc. Donc, moi, j'ai fait ça dans mon allée, au profit d'une association chez moi, en local. Et là, pour le coup, tu vois, je peux te garantir que j'ai travaillé le mental.
Ah ouais, non, mais je veux bien le croire, parce que quand je vois les tours de piste, on a des gars au club qui avaient fait du semi-marathon sur la... Nous, on a une piste de 200 mètres au club, et on a calculé, donc ça faisait je sais pas combien de tours de piste, tu vois, 100 et quelques tours de piste à tourner comme ça. On dit, mais vous êtes fous, vous n'êtes pas cogné au mur du truc. Mais je me dis, là, sur ton allée...
Ouais, dans mon allée, ouais, qui fait 110 mètres, du coup, j'ai fait 380 boucles. Et c'est vrai que voilà, là, le mental a pris une énorme partie, plus que le physique, parce que l'allure était vraiment modérée. Hein. Je crois que je boucle en 3h45, je crois, en 4h45 le marathon. Donc vraiment une allure assez tranquille. Pour autant, effectivement, il a fallu quand même retrouver des ressources mentales pour aller finir. Et c'est ça qui m'intéresse, vraiment dans la course à pied aussi. C'est vraiment tout cet aspect mental. Parce que physiquement, et je touche du bois, j'ai pas de pépins. Alors toi, je sais que tu as eu par le passé, notamment dans ta prépa, des petits soucis. Moi, ça m'est pas arrivé, hormis un TFL qui m'a embêté pendant 2 ans. Mais sinon, j'ai jamais eu de pépins physiques. Donc vraiment, je me concentre vraiment sur la tête. Et c'est bien, tant mieux.
Ouais, c'est bien. Mais je me dis quand même, ta femme, elle a dû te regarder un peu bizarrement quand même, de tourner là, dans ton allée là. Elle a dû dire, mais là il a viré Kazakh, quoi. C'est pas possible.
Ah ouais, c'est ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça donne une image des coureurs. On nous prend déjà pour des fous la plupart du temps quand on s'aligne sur des courses ou quoi. Mais alors là, c'est sûr que ça n'a pas arrangé les choses. Hein.
Ouais, j'écoutais, tu vois, c'est marrant. Ce matin, je suis allé courir au lever du soleil et j'écoutais Jogging Monito. Et c'était un peu le. Je sais pas si t'écoutes le
J'écoute,
podcast, ouais. Et c'était le sujet un peu du dernier podcast, de comment sont vus les coureurs, comment la perception, est-ce qu'on court pour soi, pour les autres. Il y a tout un débat sur l'histoire, donc je fais un petit clin d'œil parce que moi j'adore leur perception des choses. Et là je me dis, mais vraiment, si en plus, alors je sais pas s'il y a des voisins qui peuvent te voir tourner dans ton allée, parce que bon, ta femme encore, elle doit te connaître depuis le temps, mais les voisins après, ils doivent se dire, mais là c'est pas possible. Enfin, il y a des, ou tes amis, tu vois, ou bon, ton frère, il a l'air d'être un peu dans le même truc que toi, mais je pense que t'as des amis, quand tu leur dis, oui, j'ai fait ça dans mon jardin, ils vont te dire, non mais attends, c'est pas possible, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. Et pour autant, moi, ça m'a paru être une très bonne idée sur le moment. Tu vois, je me suis dit, bah tiens, mais oui, bien sûr, vu qu'on peut pas courir, et pour autant l'allée, elle est privée, elle est chez moi, bah écoute, allez, on y va, on va faire un petit marathon, voir ce que ça donne. Et puis alors, pour le coup, il y avait aussi le fait que c'était pour une œuvre, pour une bonne œuvre, tu vois, donc en récoltant un peu de sous pour l'assaut, donc c'était top. Mais, Mais c'est vrai que ouais, ça aide pas l'entourage à comprendre des choix sportifs après quoi. C'est vrai que ça amène du débat, on va dire.
Ça amène du débat. Mais d'un autre côté, après, c'est vrai qu'ils doivent se questionner, ils doivent se dire que bon, si tu le fais, c'est que tu trouves quelque part une raison, un intérêt, et que c'était encore là les discussions finalement, c'est quelle est la raison pour laquelle on court. Hein, c'est, je sais pas si tu te posais la question, parce que quand on allonge les distances, on finit par presque méditer des fois, ou en tout cas philosopher sur les choses. Est-ce que tu sais pourquoi tu cours des fois, ou est-ce qu'il n'y a pas des fois tu te dis, mais finalement, est-ce que je pourrais pas faire autre chose?
Et tu vois, je suis même en train de me demander si le fait d'être toujours tenté d'allonger les distances, c'est pas pour me dire que je vais passer de plus en plus de temps en course et je vais passer de plus en plus de temps avec moi-même. Parce qu'effectivement, il y a le quotidien, il y a voilà, le rythme infernal dont tu parles toi beaucoup, puisque tu t'es décroché un petit peu de ce monde entrepreneurial où toujours plus vite, toujours plus de... Voilà, moi, je suis un peu là-dedans, quoi. Voilà, je suis directeur de magasin, j'ai des objectifs chiffrés, je manage des personnes, je les pousse dans leur dernier retranchement pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Et du coup, moi aussi également, tu vois, j'essaie d'être toujours en dynamique par rapport à ça. Et est-ce que c'est pas finalement une bulle d'air que d'aller courir et à prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour où t'en es, qu'est-ce que t'as envie dans le futur? Ouais, j'ai l'impression que moi, c'est ma soupape de décompression, en fait, tout simplement. Ce moment de course à pied, c'est un moment avec moi-même pour réfléchir un petit peu sur moi, ma pratique, mes envies. Et le fait d'allonger les distances, je me dis, bah, plus j'allonge et plus je vais passer de temps avec moi-même, quoi. Tu vois, quand tu es à Saint-Élion, même si je l'ai fait avec mon frère, bah, j'ai passé 11 heures avec moi-même, quoi. Et puis ce temps-là, finalement, il est rare. Très rare.
Il est extrêmement rare, c'est vrai. Hein, ça fait partie des temps où on est toujours sollicité, il y a toujours des écrans, il y a toujours du monde, on est toujours quelqu'un qui peut nous téléphoner, nous envoyer un message. Puis on a la tentation nous-mêmes d'aller sur nos appareils hein, connectés, etc. Et c'est vrai que même une heure, hein, soyons honnêtes, même passer une heure avec soi déjà, c'est pas si commun que ça. Il y a plein de gens qui ne sont incapables de le faire. Alors je parle même pas de la période du confinement où c'est ce qui a été le plus difficile finalement, c'est qu'on était incapable de passer une heure avec soi-même puisqu'il y a toujours, par définition, quelqu'un qui était à côté de nous. En tout cas quand on a une vie de famille, quand on est plusieurs et quand on n'a pas une pièce dans laquelle on pouvait s'enfermer ou une allée dans laquelle on va courir, hein, chacun son truc après. Et c'est vrai que ça fait partie des moments, des endroits où on peut se dire bon bah là je suis moi avec moi-même, etc. Où on peut penser, on peut apprendre. Moi j'apprends beaucoup de choses en courant. Il y a beaucoup d'idées qui me viennent, hein. Il y a des gens qui me demandent d'où viennent mes idées, mais la plupart du temps c'est en courant. Ce qui me pose d'ailleurs des problèmes, c'est que quand je pars avec mon téléphone, souvent, je m'arrête carrément pour noter l'idée.
Ah oui.
Alors, tu vois, moi, la préparation, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que les préparations sérieuses, etc. En apparence, ma préparation, elle est sérieuse. Mais ce qu'il faut pas voir, c'est qu'il y a des fois, je m'arrête pour faire la photo sur un groupe et tout. Moi, il y a un moment donné, je me dis, bah, on peut pas s'arrêter de faire une photo. Alors qu'il y en a, ils sont comme ça, toujours droit dans leur truc, etc. Et même sur des courses. Et je pense que, je sais pas si tu avais vu la photo, j'ai fait une photo sur Instagram où au sommet d'une, bah, mon seul trail de l'année, là. Au sommet de la montagne, je fais un selfie avec des gens, etc. Et les gens me regardent et me disent, mais vous avez une course?
Mais je suis exactement comme toi. En fait, hormis quand on va se motiver sur une course dite chronométrée, on va aller chercher une performance. Effectivement, là, on va y aller et on va tout donner. Pour autant, la plupart des trails que je fais, j'ai mon téléphone avec moi et je m'autorise, bien entendu, une pause, une photo, un selfie, un moment d'échange. Et c'est aussi ça que j'apprécie beaucoup dans la pratique du trail, plus que de la route, où t'es vite rattrapé par ton chrono, c'est que tu peux aussi un peu prendre du temps pour en profiter, quoi. Voilà. Et je pense qu'on en a aussi besoin de ça. C'est pour ça que j'aime bien mixer les pratiques de la perf, c'est clair. Va dire à un pistard que tu t'es arrêté de faire un selfie, il va pas comprendre, c'est clair. En tout cas, moi, j'ai mes collègues de club, quand tu leur dis ça, ils font des bons. Et pour autant, c'est très appréciable, quoi. Très, très appréciable.
Ouais, mais moi, c'est... Alors, mon président de club, il rigole, il me dit, oh, mais alors, le nombre de photos que tu fais dans une sortie, et je lui dis, mais attends, là, tu vois les trois photos que je mets sur Strava, mais j'en ai ramené 20 ou 30 ce matin, des photos, entre les angles, entre les fois, alors, ça peut être des levées de soleil, ça peut être des plantes, ça peut être des trucs, il y a plein de trucs, hein, qu'on peut prendre en photo. Et, un jour, j'ai fait une sortie avec des gens qui courent quand même assez bien, tu vois, une sortie trail. Et en fait, ils avaient tous leur appareil photo sur eux, tu vois, des petits appareils photo, pas forcément des téléphones. Ça m'a vachement rassuré quand même ce jour-là. Je me suis dit, bah, tiens, tu vois, je suis pas le seul. Et c'est vrai que autant sur sur piste, c'est sûr qu'il s'arrête jamais faire un selfie, ça c'est un truc qui n'existe pas. Sur 10 km, on n'a pas le temps, sur 5, on n'a pas le temps. Sur marathon, moi je me rappelle au marathon de Paris quand même, j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient des photos, faisaient la vidéo, etc. Surtout à nos allures à nous, hein. Tire à dire ça, mon gars qui court le plus vite le marathon dans mon club, lui il sera pas dans cette optique-là, lui il parle le plus léger possible. Mais je pense c'est vrai que plus on allonge la distance et moins on a ce chrono, cette pression du chrono qui est là en fait.
Ouais, absolument, absolument. Alors moi pour Paris par exemple, tu vois, bon j'avais pas fait de photo. Parce que je voulais m'approcher des 3h45. Donc il y avait toujours cet objectif de temps, quoi. Et il était inconcevable pour moi, du coup, de m'arrêter. Et pour autant, je pense qu'il y avait largement la place, au final. Parce que parfois, rien que, voilà, en étant dans le dur, on pourrait s'octroyer un petit moment pour repartir plus fort. Mais oui, par contre, effectivement, c'est quelque chose que je vais faire après sur du trail, ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Oui. Alors, tu vois, Carcassonne, si je me projette, 101 km. Il y aura des moments de partage et des moments d'échange, quoi.
Oui, puis c'est dommage aussi. C'est-à-dire, tu pars dans un endroit, alors après, tu peux te dire que tu as tout dans la tête, mais c'est aussi sympa de garder quelques petites traces de ces moments-là, puisqu'il y a des. Puis ça te fait, tu vois, on parle de visualisation aussi, finalement, de revoir la photo, te permet aussi de revivre des choses que tu oublies, hein, parce que je pense que c'est une des caractéristiques de la course quand même, c'est qu'il y a des moments où tu oublies, enfin, quelques temps après, tu oublies. Hein, il y a des choses. Tu gardes des éléments, il y a des choses que tu finis par oublier, et je pense que c'est intéressant aussi d'en garder une petite trace comme ça. Alors, on a parlé un petit peu de ta philosophie, on comprend que finalement, on se ressemble un peu sur nos manières de courir, etc. Je me demandais, tiens, si tu avais des petites manies de coureur, tu sais, des trucs. Alors, je te demande pas si tu changes de caleçon, si tu as toujours le même caleçon pour toutes les courses ou quoi que ce soit, tu vois, mais des petits trucs, tu vois, ou de préparation, ou avant d'une course, est-ce que tu es superstitieux, enfin, des choses comme ça.
Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Et alors, je rebondis d'ailleurs sur ton épisode sur les chaussettes, parce que je me suis rendu compte que même là-dessus, je faisais pas du tout attention, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que je vais prendre la première paire qui vient dans le tiroir, je vais prendre le short, alors j'ai toujours les mêmes shorts, mais globalement, je fais pas attention. Et pour ce qui est du haut, alors oui, j'ai un t-shirt... entre guillemets favori que je vais plutôt mettre parce que je sais que lui les frottements ça passe bien, mais sinon globalement je fais pas du tout attention à ça. Je suis pas très méticuleux ni très rigoureux dans les packaging des sacs et tout ça, voilà. Mais non, vraiment là-dessus je suis pas du tout superstitieux ni du genre à préparer mon sac 3 jours avant ou quoi ou qu'est-ce quoi. Ça m'a valu d'ailleurs des petites frayeurs, notamment à chercher des couvertures de survie sur des contrôles de sac que je savais plus où je l'avais mise. Moi, tu vois, ce genre de truc, quoi. Ça, c'est moi. Un peu tête en l'air.
Et oui, parce que c'est ça, j'allais te dire, parce que sur les distances, quand elles vont s'allonger, les distances, il faut devenir quand même hyper précis sur les trucs que tu es obligé d'avoir avec toi. Je me demande aussi, et je le vois un peu parce que j'ai vu le règlement d'un trail qui va être organisé à la rentrée. Avec le Covid, par exemple, il n'y aura pas de ravitaillement sur ce trail-là, en fait, tout simplement. Donc, ce qui veut dire, alors, il te donne un sac au début, mais il va falloir que tu trouves un endroit pour ranger ton ravitaillement. Donc, et sur des distances, là, on parle de 100 km, etc. Il faut pas oublier un truc, sur le plan alimentation, etc. C'est aussi un autre défi, finalement.
Alors effectivement, tu vois, on se ressemble beaucoup dans la pratique, mais je pense qu'on se ressemble pas du tout sur la méticulosité qu'il faut avoir pour préparer ses courses. Parce que je sais que toi, voilà, en termes d'alimentation et tout, tu testes les choses et tout. Moi, pas tellement. Alors j'ai des barres préférées que je sais que je supporte très bien, mais par exemple, tu vois, ça m'est déjà arrivé d'aller sur des courses, et notamment des courses assez longues, avec de l'alimentation que je n'avais pas testée. Et ça se passe toujours plutôt bien. Alors, il y a une chose que je sais que je ne supporte pas, c'est les gels. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Donc, j'évite. Mais après, tout le reste, ça passe plutôt bien. J'essaie de prendre des choses qui me font plaisir. Voilà, plus que des choses qui sont réputées très efficaces. Et après, globalement, c'est assez simple dans ma pratique. C'est de l'eau et généralement, j'ai 2 flasques sur moi. Une flasque eau et une flasque avec boisson isotonique. Comme ça, j'alterne. Voilà, vraiment très classique. Mais je suis pas du genre à tout tester ou tout préparer. Voilà, je manque de rigueur là-dessus. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai par rapport à ça, parce que à force d'allonger et de ne pas se préparer correctement, à un moment donné, un jour, ça va nous rattraper. Enfin, me rattraper, parce que mon frère, il est plutôt méticuleux, mais ça va me rattraper et ça pourrait mal se passer. Donc, il faut vraiment que je fasse attention à ça.
Oui, et c'est ça en fait, parce que par exemple, bon là, sur les courses, par exemple sur de la route, bon, il n'y a pas de grand danger, j'ai envie de dire. En plus, il y a souvent des ravitaillements, des choses comme ça. Quand on va toucher au trail et quand on va rentrer dans l'ultra trail, là par exemple, les personnes du club qui avaient fait de l'ultra, c'était 170 dans les Pyrénées, je sais plus comment ils avaient fait, ils avaient un dénivelé qui était dingue, etc. Mais il y a des passages, par exemple, de haute montagne qui peuvent arriver, etc. Tu peux avoir des moments où le temps peut virer, du moment que tu es un peu en montagne, etc. Ça peut être pas beau, quoi, je veux dire, et autres. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de préparation et qui, je pense, enfin, on est obligé au bout d'un moment, non, de se dire, par exemple, sur la Saint-Élion, quand même, tu peux pas partir la fleur au fusil, quoi.
Non, et pourtant, j'ai eu des surprises de personnes non préparées. En fait, effectivement, on est parti avec un matériel obligatoire. Et là-dessus, je suis tout à fait. Je suis du genre à respecter la règle, quoi qu'il arrive. Donc, j'avais tout ce qui était demandé du matériel obligatoire, le minimum syndical. Tu vois, par exemple, une chose que je n'avais pas prévue, c'est. Alors, les coureurs expérimentés de la Saint-Élion, ils te le diront, il faut toujours partir avec deux, trois paires de gants, par exemple. Parce qu'une fois que tes gants ils sont mouillés, ah ben, t'as froid. Et c'est ce qui t'est arrivé, c'est que mes gants se sont mouillés très très vite parce qu'il faut savoir que sur les 11 heures de pluie, sur les 11 heures de course, on a eu 10 heures de pluie. Donc, du coup, au bout de 2 heures, j'avais les mains complètement frigorifiées. Et le souci, c'est qu'avec des gants mouillés, je les ai enlevés et je me suis retrouvé toute la nuit sans gants. Donc voilà, tu vois, ce genre de truc, mal préparé ou mal renseigné plutôt, puisque finalement, ils demandaient une paire de gants que j'avais. Mais par contre, il aurait fallu 2-3 paires de gants de manière à pouvoir se changer. On a vu beaucoup de gens se changer pendant la Saint-Élion, tu vois, ils étaient très habitués, ils savaient qu'à un moment donné, trempé, il faut se changer pour se retrouver, on n'était pas équipé, voilà, on ne s'est pas changé. Les chaussettes, pareil, tu vois, quand tu marches pendant 10 heures dans la boue, tu as les pieds qui commencent à patauger, et c'est là où tu peux commencer à avoir des ampoules, etc. Bon, on ne s'est pas déchaussé, on n'a pas. Voilà. Donc notre expérience de la Saint-Élion à nous, elle était vraiment à la dure. Et c'est vrai que ça me fait réfléchir. Je me dis, voilà, demain, tu t'alignes sur un 101 km, il faut te renseigner. Il faut que tu comprennes un petit peu ce qui t'attend pour maximiser un peu aussi tes chances que ça se passe du mieux possible. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience qui l'amène, tu vois, au fur et à mesure des courses, à un moment donné. Alors ça passe toujours. Ça passe toujours, mais ça pourrait passer dans des conditions qui sont quand même un petit peu plus acceptables que ce qu'on peut vivre. Et pour autant, on en retire toujours du positif. Tu vois, quand on arrive à la Saint-Élion, on a froid, on est mouillé, on a passé une nuit très compliquée, et on se rappellera que du positif au final. Et c'est ça qui aussi est paradoxal dans ce sport, c'est que sur 11h40 de course, tu vas souffrir pendant 10 heures, et tu te rappelleras que de l'heure qui était super, quoi. Voilà. Mais ça n'empêche que effectivement, il y a une réflexion à avoir quand même sur bien se préparer et bien s'alimenter aussi, parce que tu vois, je pourrais faire le parallèle avec une course en montagne qu'on a faite. Donc, on a fait le Grand Trail de la Vallée d'Ossau. Donc, ça fait 2 ans que je le fais avec mon frère en relais. Et cette année, on s'était inscrit pour le faire en solo. Donc, en relais, c'est 37 km avec 5 000 de dénivelé positif. Donc, tu vois, ça commence à grimper sévère. Et cette année, on avait prévu de faire le solo, donc qui fait 72 km avec 10 000 de dénivelé positif. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui commence à piquer. Et on a eu, mon frère et moi, on a eu des soucis de déshydratation sur ce genre de course-là, quoi, par exemple, tu vois. Parce que, voilà, parce qu'on ne boit pas tous les quarts d'heure, parce qu'à un moment donné, il fait très chaud et on va se mettre à boire d'un coup beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on a très, très soif et puis tout va ressortir. Bon, voilà, tu vois, des expériences comme ça de course qui font me dire qu'à un moment donné, quand on s'engage sur ce genre de course-là, il faut être sérieux. Il faut être sérieux dans la prépa, il faut être sérieux dans l'anticipation. Ce que je ne suis pour l'instant pas.
Mais il y a aussi, c'est vrai que tu disais l'expérience, hein, qui est importante, hein, parce que le fait de se connaître, de savoir ce qu'on est capable de manger, le fait de savoir qu'on est capable de manger à peu près tout ce qui passe, sauf des gels, ça c'est un bon point de le savoir quand même, parce que c'est vrai qu'on jure, il y a des gens qui jurent par le gel. Moi, le gel, je suis comme toi, c'est un truc déjà le fait que ce soit un gel, tu vois, que c'est la texture, tout le truc, quoi. T'as le produit chimique là qu'il y a là-dedans, etc. Déjà, pour moi, ça me repousse, tu vois. Moi, j'aime bien mon petit truc de miel à côté, j'aime bien ça, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne supportent pas du tout les gels, mais il y a des gens aussi qui ne supportent pas autre chose. J'avais discuté avec un gars qui a fait des trails, alors lui, il a fait un trail dans le Sancy, et qui n'avait pas du tout mangé pendant 56 bornes, parce qu'il est incapable de manger quand il court. Alors, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vois, il va toucher une limite, alors il arrive à exténuer, quoi, tout simplement, il arrive à une limite, mais bon, lui, il sait que il faut qu'ils entraînent là-dessus. Alors, je sais pas s'il a trouvé la solution depuis, parce que quand même, ça fait 2 ans que je l'avais vu. Mais c'est vrai que c'est important de se connaître. Et je crois que l'expérience, il y a que l'expérience qui te l'amène, parce que tu peux pas simuler un 101 km en entraînement, c'est pas possible.
Oui, tu as raison. C'est imprévisible. C'est ça aussi qui est assez intéressant, en fait, quand tu t'engages sur ce genre de course-là, c'est que tu pars vers l'inconnu. Alors, tu vas essayer de minimiser au maximum, quand même, ce qui pourrait t'arriver. Et pour autant, il y a une vraie part d'inconnu qui, moi, m'attire beaucoup. Savoir déjà comment mon corps va réagir à la distance, comment mon corps va réagir à l'alimentation que je vais lui donner. Et c'est vrai que cette part d'inconnu-là, elle peut faire peur. Elle peut faire peur. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, il faut essayer de se renseigner et prendre ce qui marche, quoi. Voilà, prendre ce qui marche. Donc, moi, les gels, ça marche pas, donc j'en prends pas. Mais je sais que voilà, il y a des choses qui marchent très bien chez moi et qu'il faut absolument que je maximise, quoi.
On va rentrer sur une partie un peu, on va dire, tiens, des conseils pour ceux qui écoutent, qui disent, ah bah tiens, je voudrais courir. Alors on a ceux qui débutent, hein, vraiment dans la course, puis ceux qui peut-être seraient intéressés justement, tu vois, par allonger les distances, etc. Alors je pense qu'ils sont très rassurés par contre par cet élément que tu donnes de dire que finalement t'as pas un entraînement démentiel pour arriver à courir ce type de course. D'ailleurs, j'ai même vu des gens qui ne couraient quasiment que le week-end, mais qui ne font que des marathons. Mais qui alignent, il y a des gens qui ont 500 marathons dans leur vie, hein, quand on regarde un petit peu leur truc, bon, ils sont assez âgés maintenant, mais qui alignent presque un marathon tous les week-ends, mais qui ne font que ça, hein, vraiment. Donc cette pratique-là, elle existe aussi, etc. Mais finalement, quand tu te dis, bon, je peux pas m'entraîner autant que je veux, tu fais quoi, 2 séances de club, tu cours combien de fois par semaine en fait?
Ouais, c'est ça, t'as tout à fait raison. C'était 2 séances de club, donc le mercredi qui va être une séance plutôt fractionnée, le vendredi qui va être plutôt une sortie club. On va aller faire 10-12 km. Et j'essaie de me rajouter une séance le dimanche matin, à la fraîche, pour essayer d'avoir à minima 3 sorties par semaine. Voilà. C'est rarement plus, hein.
D'accord. Et donc avec ça quand même, tu arrives à préparer donc du marathon. Bon, on va dire ça passe, hein. C'est vrai que le marathon, faut bien 3 sorties quand même, hein, pour être quand même assez à l'aise et pour travailler un petit peu tous les aspects. Mais tu as réussi à préparer donc des plus longues distances, hein, tout simplement. À quelle allure tu cours dans ce cas-là, tes sorties longues, tu privilégies de dire bon bah je vais surtout travailler l'endurance, de courir longtemps. C'est quoi une sortie longue d'ailleurs pour toi? Ce serait quoi la durée en fait?
Ouais, je suis comme toi, hein. Je suis adepte quand même de l'endurance fondamentale. Je pense que quand on a comme moi peu de volume, il faut quand même maximiser au maximum l'endurance fondamentale. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir courir longtemps et pas forcément à des allures qui sont très élevées. Alors généralement, bon, tu vois, hier j'ai fait une sortie, je crois que je suis à 5,50 de moyenne, tu vois, au kilomètre, donc c'est assez lent. Bon, il faisait très chaud, mais voilà, c'est à peu près. Donc, je vais être plutôt sur 5,20, 5,30 dans ces allures-là, qui sont pas forcément très lentes, hein, d'ailleurs, mais qui sont des allures dans lesquelles je me sens bien et sur lesquelles je pourrais courir longtemps. Voilà, j'ai quand même l'impression de travailler mon endurance. Et après, il va y avoir des séances beaucoup plus dures en fractionné où là, on va courir des 1000 à 3,20, 3,30. Pour essayer de taper un petit peu et essayer d'aller récupérer de la vitesse. Voilà. Mais sinon, effectivement, je suis plutôt adepte des sorties cool et des sorties lentes.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est pas si lent que ça quand même, hein. 5,20, 5,50,
Et non. Et non. Et non. Et c'est vrai, hein. Et quand j'écoute un petit peu tout ce qui se dit sur l'endurance fondamentale, je me rends compte que je suis bien plus rapide que ce qui devrait, puisque finalement, quand je cours moi à 5,20 ou 5,30, le cardio est quand même relativement élevé. Donc ça veut dire quand même que bah, le corps est mis à contribution. Voilà. Il n'est pas forcément économisé. Mais j'ai aussi, tu vois, alors c'est peut-être à tort, hein, de me dire, mais si tu fais ça à l'entraînement, que tu cours à 5,20, 5,30, quand tu seras en course et que tu seras à 6, 6 et demi, bah finalement, ce sera toujours plus simple.
Oui, tu te sentiras cool, quoi.
Exactement.
Tu seras dans une sortie, un moment cool, tranquillement, la petite balade pépère.
c'est ça, exactement. Je me dis, voilà, à l'entraînement, il faut essayer quand même d'être un petit peu plus rapide que ce que je pourrais ensuite produire en course. Voilà, comme ça, au moins, ce sera toujours plus simple.
Ouais, alors tu vois, par curiosité, en même temps que tu parlais, j'étais en train de regarder mon téléphone, je suis allé voir mes dernières séances, ma dernière séance de prépa marathon, qui était une sortie longue, donc le 15 mars, hein.
Ouais, ça remonte.
Elle est loin, et j'en suis loin d'être capable de le refaire. J'ai fait 25 bornes à 5,23 de moyenne. Voilà, en fait, ma sortie longue, c'était ça. Donc pour ça, on est vraiment dans les mêmes types d'allure. Alors, il y a des moments où c'est plus lent que ça, mais c'est vrai que mon allure marathon, moi, je me suis fixé sur une 4,45. C'est mon rêve, c'est d'arriver à tenir les 4,45 sur les 42 bornes. Et j'en ai parlé à quelqu'un du club, hein, qui, je sais pas si toi t'as une stratégie, comment tu pars, est-ce qu'il faut partir, faire le premier semi doucement, faire le deuxième semi plus rapide, est-ce qu'on doit alterner les vitesses, etc. T'as des stratégies, toi, comme ça, ou tu le fais au feeling?
Sur le marathon, alors moi, tu vois, comme quoi on a quand même relativement, on a quand même beaucoup de points communs sur notre pratique, c'est que pour Berlin, je m'étais dit, ben écoute, tu vas te mettre à 5. Et tu vas tenir les 5. Quoi. Ça t'amènera à 3h30, ce qui est pour moi un rêve aussi de pouvoir courir un marathon à 3h30. Enfin, j'adorerais. Et la stratégie, en fait, elle est simple. Hein. C'est le premier kilomètre, il est à 5 et le dernier, il doit être à 5. Mmh. J'ai pas de négatif pli, tout ce genre de choses. Tu vois, j'ai un petit peu de mal avec ça parce que j'aurais trop peur d'avoir raté mon calcul et de m'en vouloir après. Alors que je sais que si je tiens 5 tout du long, globalement, au final, ça doit faire 3h30. Voilà, donc, mais bon, écoute, Berlin, ce sera pour l'année prochaine.
Ouais, alors moi, le meneur d'allure de Paris, en fait, m'a dit, j'avais discuté avec le meneur d'allure, je l'ai raconté. Il a dit oui, mais moi, de toute façon, je pars à 5 et j'arrive à 5. Lui, c'est son truc, il a plein de marathons, il fait 5-5. Mais c'est vrai qu'il y a des meneurs d'allure qui ont du négatif split, qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire que, et même une fille du club m'a dit ouais, mais moi, je pars à 5-10, 5-15. Et mon but, c'est d'arriver plutôt à 4,45, hein, gros, parce que il faut rattraper dans les moments. C'est une stratégie parce que j'en connais d'autres en fait qui font l'inverse. Tu sais, qui partent finalement plus vite et qui arrivent à tenir. Alors moi, on m'a toujours dit oui, il faut s'économiser, attention, on va griller les cartouches. Tu vas prendre le mur. Alors moi, je l'ai pris sur mon premier marathon. Je sais pas si t'as pris des murs toi sur les marathons. Si t'as des mauvais souvenirs comme ça, de dire à un moment, j'avance plus du tout, quoi.
Ouais, ouais. Mais écoute, alors moi, tu vois, j'ai du mal avec l'expérience que j'ai de marathon. Hein, j'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns. Et comme à chaque fois, à partir du 30e, ça devient dur, j'ai du mal à me projeter en me disant que je finirai plus fort que je n'ai commencé. Ça, pour moi, ça me paraît assez improbable. Et du mur, oui, j'en ai pris. Ouais, j'en ai pris à Paris, notamment. J'étais parti avec mon frère, on était sur des bonnes allures, on était sur l'objectif à 3h45, comme prévu. Et au 32e, j'étais plus là, alors que lui, du coup, il était plutôt bien. Et donc, c'est là où il m'a décroché et qu'il est parti, lui, faire son temps, comme prévu, à 3h44, même 3h44, je crois. Et moi, j'ai fini en 3h49 à Paris, parce que j'ai explosé au 32e et ça a été très compliqué. Et alors, en plus, ce qui est encore plus dur, c'est que quand tu exploses, tu te retrouves seul. et du coup, voilà, il fallait trouver les ressources. Et là aussi, elles sont mentales, pour le coup, pour finir et pas... Et pas, tu vois, me retrouver au-delà de l'objectif, mais de manière sévère, quoi. Donc là ça a été compliqué.
Ouais, mais moi, je me rappelle le marathon de Paris, cette errance à travers le bois de Boulogne. Et puis, mais en fait, ce qui est vachement rassurant, c'est qu'il y en avait qui étaient dans des états, mais qui étaient catastrophiques. Il y en avait un qui était, il y avait des bâches blanches, hein, qui étaient sur le bord de la route. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Là, on se dit, on va se calmer quand même. Il y en a quand même qui vont très, très loin. Mais le nombre de personnes dans le bois de Boulogne qui étaient contre un arbre, qui étaient assis sur des petits trottoirs, etc. Et en fait, il est long, ce bois, hein, quand même. Ceux qui préparent le marathon de Paris, je sais pas, pour l'instant, c'est marqué 18 octobre, s'il va se maintenir, etc. Mais comme là, on est dans une journée quand même, on enregistre, je le dis, le 25 juin, on est au lendemain de l'annonce de la suppression du marathon de New York et du marathon donc de Berlin. J'ai vu que Chicago était très 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 largement menacé. Je me demande comment ils vont tenir. Enfin, je me demande comment on peut tenir Paris dans ces conditions-là. Donc, ceux qui sont dans la préparation de ce type de truc, c'est vrai que il faut se préparer, de se dire bon, il y a un moment donné, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi mal se passer, et c'est tout à fait normal, en fait.
Oui, c'est dans la logique des choses. Et ce qui est encore plus paradoxal aussi, c'est que quand tu cours, tu peux avoir des moments d'euphorie, tu te dis il pourra rien m'arriver. Je suis sûr, ça y est, là je suis bien, et 2 minutes après, le calvaire. C'est aussi ça qui rend ce sport si particulier, et je pense que la grosse Il faut avoir beaucoup d'humilité avec ce sport-là, quoi. Te sentir bien au 22e ne veut pas dire que tu seras bien au 32e, quoi. Pas du tout. Et ton corps peut vriller en 2-2, tout comme ça peut très très bien se passer et ne jamais voir le mur. Donc voilà, il faut toujours rester en alerte. Et je me souviens toujours à Paris, moi, ce qui m'avait fait assez mal aussi, c'était les quais de Seine. La succession de ponts, hein, qui était venue quand même me hacher un peu les cuisses. Mais bon, voilà, c'est une course qui est magnifique. Quoi qu'il arrive, elle est magnifique.
Ouais, non, mais c'est vrai, moi j'ai un souvenir des quais, là, des très 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 mauvais souvenirs des quais. Quand on arrive au Trocadéro, il y a la Tour Eiffel sur un côté, mais j'en ai marre, c'est monter, c'est descendre, ce tunnel hein, qui n'en finit jamais, etc. Tous ces trucs-là dans lesquels il fait chaud, le GPS ne marche même plus, on sait même plus combien il reste. Moi je comptais les trottinettes qui restaient sur les trottoirs, parce qu'il y en a qui vont planquer les trottinettes électriques là-dedans. Et on se dit, mais quand même, c'est pas possible que ça se finisse pas, etc. Et c'est vrai que ça fait partie aussi du charme, les organisateurs à Paris s'amusent avec ça, parce que j'ai fait les 10 km de Paris, qui, à l'époque s'appelait L'Équipe, maintenant ils ont changé de nom, je sais plus quelle est la marque qui sponsorise, c'est Adidas ou qui que ce soit, et ils ont ce petit jeu de te faire passer sur les quais, les ponts, les trucs comme ça, les espèces de coups de cul, et moi il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que j'avais énormément souffert cette course, il était très très chaud, et le seul moment où je me sentais bien, c'était il y a un dernier petit coup de cul pour remonter des quais, pour remonter vers l'arrivée, et d'un coup il y avait un raidillon, tu sais, mais qui fait 15 mètres de long quoi, tu vois, un tout petit raidillon. Et tous, d'un coup, tu sais, ça les a stoppés. Ils se sont retrouvés complètement arrêtés. Et moi, j'ai dit, ah bah tiens, il y a de la montée, j'accélère. Et tout d'un coup, tu sais, ce phénomène de dire, ah bah finalement, je me sens vachement bien. Mais c'était, il restait 100 mètres hein, ou 200 mètres derrière. C'était une espèce de petit truc comme ça. C'est vrai que c'est paradoxal quand même. Hein. Il y a des moments où on apprend, quoi. Enfin, voilà, on est dans l'apprentissage.
Ouais, c'est ça. Et puis alors, en plus, pour toi qui est quand même habitué au dénivelé... ce genre de petite pente, ça doit pas te faire peur. Moi, il faut savoir que j'habite dans le Médoc, hein, donc très proche de Bordeaux. C'est plat comme pas possible. Donc autant te dire que dès que ça grimpe un peu, et pour autant j'adore hein, quand ça grimpe, mais dès que ça grimpe un peu, moi, c'est sanction directe. Hein, le cardio, il monte en flèche.
Oui, moi, la difficulté, c'est de trouver du plat, en fait, pour d'autres dire. J'arrive, c'est très, très compliqué de trouver du plat, parce qu'on a... Puis moi, j'habite au sommet d'une... J'habite dans un bourg, mais moi, j'ai une... Ça monte ou ça descend. Enfin, de toute façon, voilà, c'est comme ça, ça monte ou ça descend. J'ai beau regarder, ce matin, j'ai encore fait 224 mètres de dénivelé positif, ouais, en ayant couru que 8 km. Donc, tu vois, comme quoi, c'était... Bon, je suis allé chercher un petit peu, mais j'ai même pas fait d'escalier, tu vois, j'ai même pas fait les trucs, etc. Et c'est vrai que moi, en Auvergne, c'est vrai qu'on a cette chance-là, qui est de dire, on a toujours de la pente, quelque part. Nous, on se fatigue pas pour la trouver, la pente. Hein, on n'a pas besoin d'aller faire des grosses... Pas besoin d'inventer des escaliers pour trouver de la pente. Mais c'est vrai que par exemple sur de la préparation des fois on a besoin de trouver du plat et c'est pas si simple que ça, mais ça aussi c'est davantage hein. La pente pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est quand même extrêmement, ça développe hein, le cardio, les jambes, les cuisses, ça développe plein de choses. Et puis une bonne séance de ça, tu peux pas connaître en club, nous on fait des séances de côte en club. Et un jour le coach m'a dit celle-là tu verras, tu t'en souviendras pendant le marathon, celle-là elle va te servir. Mentalement, celle-là va te servir.
C'est
parce
sûr.
Que ça fait partie des grosses difficultés, ça fait partie des choses qu'il faut arriver à affronter, etc. Et à la différence des courses, c'est qu'en trail, bon, tu te dis, bon, je vais marcher dans la montée. Là, à l'entraînement, t'as pas le droit de marcher parce que c'est l'entraînement, donc tu dois le faire à fond et à courir, quoi.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est sûr que nous, du coup, quand on s'engage sur des trails en montagne et qu'on prend 2500 de dénivelé positif quand tu as passé deux ou trois cols, c'est la sanction directe, quoi. Et là, tu sais que, voilà, tu sais que t'habites dans du plat, quoi. Et tu le payes assez cher. Mais bon, écoute, on fait avec. On a quand même, sur Bordeaux, la chance d'avoir la rive droite, qui est un petit peu plus propice pour le dénivelé. Faut prendre la voiture, mais on peut quand même aller travailler un petit peu. Ça m'arrive de temps en temps. C'est trop rare, hein, mais ça m'arrive. Mais bon, pour le plat, en tout cas, on est bien servi. Parce que moi, hier, je crois que sur 12 km, j'ai 20 mètres de dénivelé positif, je crois. Donc, tu vois.
Ah ouais, ben.
Ah oui.
C'est ce que j'ai dans ma rue. Eh oui, bah ouais, on a chacun on a tous des baskets aux pieds, mais on n'a pas les mêmes terrains, on n'a pas les mêmes. C'est pour ça d'ailleurs que l'épisode sur les courses virtuelles, ce que je disais, c'est que ils disent il faut trouver le terrain le plus plat possible. Je dis moi les courses virtuelles de 10 km, je me prends 200 mètres de dénivelé minimum. De simple fait de partir de la maison, de rentrer à la maison, hein, c'est. Ce matin j'ai regardé, tu vois, j'ai essayé de faire du dire, oh, tu as essayé de passer par du plat. Et en fait, à un moment où je regardais le terrain, j'ai dit non mais attends, il y a une cuvette, ça remonte, ça descend, ça remonte. Je dis dans tous les cas, j'aurai pas de plat. Donc c'est comme ça, on s'y habitue, hein, c'est fait partie des choses auxquelles on s'habitue. Je pense d'ailleurs qu'on s'habitue peut-être plus facilement, tu vois, à se dire on va aller courir, on fait beaucoup de dénivelé, puis le jour où c'est plat, ça déroule en fait. D'un coup, on trouve que ça déroule. Alors que je te comprends de dire d'un coup, quand tu te chopes beaucoup de dénivelé, alors que tu n'as pas pu t'entraîner vraiment à le faire, ça fait partie des conditions d'entraînement qui peuvent être compliquées d'ailleurs, de se dire comment est-ce qu'on prépare un truc quand on n'a pas autant de dénivelé à faire, mais quand on doit faire du dénivelé, c'est pas si évident que ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, du coup, je suis inscrit à une salle de sport. Je couple ça avec une pratique en salle où j'utilise, tu sais, le sort d'escalator là, automatique, ouais. Là, voilà, pour essayer de capitaliser un petit peu sur le dénivelé, parce que vraiment, ça peut nous jouer des tours. Hein. Le cardio qui monte, les cuisses qui chauffent, et du coup, le corps comprend pas bien ce qui est en train de lui passer. Et là, en plus, cette année, si on s'était engagé sur le solo, donc il y avait 5000 de dénivelé positif, je crois que j'ai dit 10000 tout à l'heure, mais je m'étais un peu enflammé, c'est bien 5000. Ça veut dire quand même que tu vas passer 7 cols, et que du coup, il faut pouvoir quand même enquiller les cols et ensuite redescendre, etc. Et donc ça demande musculairement aussi des prédispositions qu'on n'a pas forcément nous tout au long de l'année, parce que trop de plat chez nous, quoi.
Ouais, tu découvres que t'as des muscles qui fonctionnent pas tout à fait de la même manière.
Exactement.
Mais ça arrive partout, moi. Quand j'ai fait ma transition pour passer en ultra, mais en five fingers, donc en vraiment rien du tout. Mon premier trail, j'ai découvert des nouveaux muscles. Hein, ça fait partie des choses. Et je dis, oh, mais tiens, ça travaille pas du tout pareil qu'avant, mes muscles, etc. Et donc, je comprends aussi ces difficultés qu'on peut avoir. Tiens, d'ailleurs, je parlais d'ultra, etc. Tu cours en quoi? C'est quoi ta marque, toi? Avec quoi tu pars?
Alors tu vois, les chaussures c'est pareil, c'est à l'image de moi, c'est que je teste tout et que j'ai pas de marque encore prédéfinie. Alors historiquement, je courais chez Nike, avec notamment les Pegasus. Et je te disais tout à l'heure que j'ai été embêté par un TFL pendant 2 ans et j'ai pensé vraiment que ça venait des chaussures. Parce que alors, chez Nike, il faut savoir qu'il y a quand même un drop on est quand même quasiment à 10 hein, de mémoire, donc un drop relativement élevé. Et j'ai un TFL qui m'a vraiment embêté jusqu'à que je décide de me faire soigner correctement et que j'aille voir un podologue posturologue qui du coup m'a repris un petit peu tout l'alignement et m'a refait des semelles, mais alors pas des semelles comme on peut l'entendre avec des corrections qui viennent te bloquer le pied dans la chaussure et machin, mais plutôt juste une petite correction au niveau d'une différence de jambes. Et depuis, j'ai plus aucune douleur. Entre temps, j'ai quitté Nike, je suis passé chez Oka. Donc mes chaussures de route sont des Oka, mes chaussures de trail sont des Nike, puisque mon frère m'a racheté une paire de Pegasus pour que je me réconcilie avec la marque, et mes chaussures de piste sont des Kalenji. J'ai pris les ultra light là, qui font moins de 200 grammes uniquement pour la piste. Donc tu vois, sur 3 paires de chaussures, j'ai 3 marques différentes. Mais je t'avoue que le fait de t'entendre parler d'ultra assez régulièrement, et notamment l'épisode avec la personne qui était chez Altra,
oui,
absolument, m'a vraiment donné envie de passer, enfin en tout cas d'essayer, voilà.
Ouais, mais c'est ce que je disais, j'ai envoyé un mail hier à Altra, et j'aurais dit, écoutez, la team Altra France, elle grandit, parce que j'en ai quand même un paquet qui me pose des questions, qui me dit, oh, tiens, il faudrait qu'on essaye, qu'on fasse des tests. Alors, je le dis, à tous ceux qui écoutent cet épisode, vous êtes un certain nombre, quand même, rien mais des messages en me disant, je suis passé sur Altra, je cours en escalante, qu'est-ce que je vais prendre maintenant pour le trail, etc. et tout. Et c'est vrai que ça fait partie des questions, des tests, hein. Alors, ça convient à certains, ça convient pas à d'autres, etc. C'est vrai que ces questions de drop, hein, c'est pas non plus anodin, parce que les muscles travaillent pas tout à fait de la même manière, les tensions sur les tendons, les choses comme ça sont un petit peu différents et autres. Mais je crois aussi que le fait que tu aies plusieurs marques te facilite le passage d'une marque à l'autre, etc. Moi, je vois des coureurs, par exemple, qui ont peut-être 5-6 marques différentes, tu vois, et qui arrivent à passer d'une marque à l'autre sans blessure, sans truc, en fonction des courses, ils prennent ça, etc. Tu vois, bon. Je crois qu'il y a aussi une capacité d'adaptation du corps. Moi, mon truc à moi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des grosses semelles. Voilà, c'est partie du truc.
Ouais. Mais moi, ce qui me rassure vraiment, effectivement, tu as raison, hein, c'est de me dire que je suis sur 3 marques différentes et que j'ai aucune douleur. Et donc là, je vois vraiment le fait que je pense que mon problème de TFL, c'est pas lié principalement à un problème de drop ou un problème de marque ou de chaussures. C'est vraiment parce qu'à un moment donné, il y avait un déséquilibre du corps qui fait que il fallait juste corriger ça et impeccable. Mais Mais je pense quand même que Altra me correspondrait bien parce que je suis comme toi, j'ai quand même essayé d'améliorer ma foulée. Alors pas de la changer, hein, parce que c'est toujours très très compliqué, mais en tout cas de l'améliorer, de l'optimiser. Et je suis beaucoup plus en attaque médio-pied ou avant-pied que je ne l'étais avant. Et je pense que dans la logique des choses, ça m'amène quand même sur des chaussures qui ont moins de drop, pour avoir des foulées quand même beaucoup plus naturelles que ce que j'ai pu connaître. Et au cas, alors j'avais acheté ça pour le marathon de Berlin, justement, je m'étais dit, voilà, ça, c'est le moment d'essayer. Donc c'est des Kifton 6. Qui ont un drop de 4. Hein. Le paradoxe chez Oka, c'est qu'on a l'impression que ce sont des drops hyper élevés, mais pour autant, c'est des drops qui sont très faibles. Donc, drop de 4, mais avec une grosse semelle, effectivement, qui me permettrait quand même d'avoir une foulée relativement légère et pour autant beaucoup d'amorti qui me préserverait quand même de la distance. Voilà, c'était un peu l'idée. Bon, j'avoue que je suis très bien dedans. Hein. Je prends beaucoup de plaisir à courir avec. Et quand je prends mes chaussures de piste qui ont quasiment plus de semelle, allez, on est. Ben, ça se passe très bien aussi. Alors effectivement, c'est là où on se rend compte qu'on a des mollets, qu'ils existent et qu'ils sont très 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 mis à contribution quand j'ai les Kalenji au pied. Mais effectivement, je passe d'une marque à l'autre sans trop de problèmes. Mais je pense que j'y viendrai quand même chez Altra. En tout cas,
Ouais.
j'essaierai.
Tiens, en parlant de chaussures, je me dis, est-ce que tu as testé, est-ce que tu as fait du cross un petit peu? Parce que là, on change encore de chaussures. Pour faire du cross, on met les pointes. Et là, au niveau de minimalisme, tu passes encore un cap, hein, parce que tu as l'impression, bah, tu cours sur une plaque, hein, de façon devant. Tu t'es pas assis au cross?
Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, c'est pas faute que le club ait essayé de m'y mettre, mais j'avoue que ça me tente pas du tout. Ça me tente pas. Il y avait quelques crosses là cet hiver notamment qui se sont déroulées tout ça et je j'y ai pas été. Non, je le sens pas.
Oui, et ben moi, tu vois, alors voilà, tu vois, ça sera le défi que pour l'hiver prochain, je pense. Effectivement, les crosses, c'est l'hiver parce que c'est typiquement, c'est ce qui, c'est ça se court l'hiver, quoi. Le cross, hein, c'est comme ça, c'est la discipline de l'hiver. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Parce que c'est de toute façon c'est à fond, c'est moins de 5. Alors toi à ton âge, je sais pas quelles sont tes distances, etc. Mais moi j'ai des distances où ça monte jusqu'à 12 km, mais dans ce cas-là c'est juste l'horreur parce que ça va trop vite et c'est très très long. Hein. Nous les on a cross international, ils sont à 10-12 km. Là quand tu t'alignes, c'est même pas la peine d'aller là-dessus. Mais déjà les 5, 6, 7 km, etc. Tu vois, et c'est nerveux, ça bouge dans tous les sens, il y a des petites espèces de petits montées, de raidillons, de virages. Enfin, les organisateurs s'amusent beaucoup, tu vois, là-dedans. Mais en fait, je me suis rendu compte que sur le plan mental, tu souffres en fait dès le départ, tu vois, c'est dès le départ, et là ça te travaille, tu vois, un autre truc. Et j'avais raconté l'anecdote à hein, une copine du club qui venait de faire un marathon, et son mari, et donc le week-end, quelques temps après, elle va faire un cross, et son mari dit: ouais, attends, t'as fait 42 bandes, tu peux bien faire 5.
Et
Elle dit:
voilà.
ouais, bah, je suis pas certaine.
On en revient toujours à la perception des gens par rapport à la distance, quoi. Plus t'en fais, plus tu penses que tu peux en faire moins, mais en fait, c'est horrible, quoi.
Ouais,
Horrible,
les gens
horrible.
sont très impressionnés par la distance, en fait, c'est
Absolument.
vrai. Et c'était des réflexions qu'on entend dans certains trucs, hein, dire que bah il y a des gens qui sont capables de courir très très vite. Et alors, on enlève le cas hein, de notre ami Kenyan qui a couru le marathon en moins de 2 heures parce que lui il court vite pendant 42 bornes, ce qui est juste inhumain. Parce que moi j'ai pas réussi à faire un tour de piste à sa vitesse à lui, dans
Non
laquelle
plus.
il a tenu 42 bornes. Mais c'est vrai que des gars qui courent du 400, du 800, etc., des fois c'est très compliqué pour eux de monter sur des longues distances. Comme pour nous, à coureurs un peu lents ou aller sur des courtes distances, c'est un petit peu compliqué. Moi j'avais dit, je voulais faire du 5 et du 10 pour des questions comment dire, je trouve que c'est des courses qui sont faciles. Tu peux t'inscrire au dernier moment, t'as pas besoin de grandes prépas, etc. Mais c'est vrai que c'est une souffrance, hein, vraiment sur le truc. Et j'en viens, c'est vrai, comme tu disais, peut-être que le semi-marathon pourrait être finalement un petit peu l'espèce de course intermédiaire qui. On y est dans les sorties longues, moi. Une sortie longue, elle fait dans ses 21, 22 km. Donc finalement, ça reste une distance qui est pas extraordinaire.
Absolument. Ça reste un format que tu pourrais courir vite, mais que tu peux t'autoriser à courir plus lentement et pour autant apprécier la distance. Ce qui n'est pas le cas d'un 5 ou d'un 10, quoi. Enfin, si, alors tu vas faire ton entraînement avec le club et tu vas faire 10 bornes tranquille. Mais si tu t'alignes sur un 10, tu vas forcément en mettre une bonne pour aller faire un temps. Parce que c'est comme ça, c'est dans les standards, quoi, du 10. Mais le semi, tu commences à toucher avec une distance sur laquelle tu pourrais te faire plaisir ou te permettre d'aller un petit peu moins vite tout en appréciant la course. ce qui est aussi le cas du marathon, mais là par contre voilà, tu passes sur des distances qui sont quand même bien plus élevées et bien plus exigeantes. Mais oui, je suis d'accord, le semi c'est la sortie longue qui va bien, quoi.
Voilà. Et c'est pour ça que je fais vraiment, tu vois, je me dis, bon, le semi, ça peut être finalement peut-être la distance qui convient aussi à mon pédigré actuel, tu vois. En plus, c'est relativement court. Enfin, je veux dire, c'est un effort. Enfin, c'est. Quand on prend l'habitude de courir, ça reste finalement un effort qui reste relativement court. Bon, tout ça, quand même, nous amène un peu vers la fin de l'épisode. Et puis, il y a une question des objectifs. Hein. Tu as parlé, tes marathons, tes courses qui s'annulent les unes derrière les autres. Tu as un dossard dans l'année. Est-ce que quand même t'as trouvé pour l'instant, donc tu disais peut-être une ouverture de course potentielle sur la fin d'année, ou t'as peut-être des choses comme ça qui tu te dis, mais comment tu envisages les 6 mois qui restent, hein, de cette année là de et puis déjà se projeter sur 2021 finalement?
Ouais, bah écoute, ça va être une année à la cool, hein. Ça va être une année à la cool. Ça va être du running plaisir. Ça va être du running plaisir avec le club. Enchaîner les sorties, essayer de découvrir des nouveaux coins, aller en forêt, se balader avec le club. Voilà, sans préparer quoi que ce soit, mais en soi, c'est pas bien grave. Hein. C'est que 6 mois dans l'année de la vie d'un coureur. Et c'est surtout se dire que tout ce qui est annulé cette année est reporté l'année prochaine. Donc, si cette année-là, elle est calme, l'année prochaine, elle sera très active, puisque finalement, les dossards, petit à petit, se reportent d'une année sur l'autre. Hein. Les organisateurs nous permettent de repousser nos dossards sur l'année prochaine. Et c'est ce qui se passe pour moi, hein, puisque Berlin, du coup, le mail est tombé hier. On a la possibilité de prolonger notre dossard pour l'année prochaine, sachant que Berlin, c'est un tirage au sort à la base qui est assez compliqué. Donc j'étais quand même content de pouvoir me dire qu'un jour je pourrais au moins le faire. Tu vois, le marathon du Médoc, pareil, qui est mythique ici chez nous, pareil, il sera reporté à l'année prochaine. Donc voilà, au final, les courses, elles vont s'enchaîner. Enfin, si les circonstances le permettent, hein, les courses vont s'enchaîner l'année prochaine. Donc vraiment là, je me dis, je prends les choses comme elles viennent, quoi. Voilà, c'est prendre du plaisir dans la pratique, et effectivement peut-être aller accrocher ce fameux dossard des Qatars, donc de Carcassonne, qui est le 101 km, qui serait mon premier pied dans l'ultra, avec une nuit en course. Mais voilà, ça, je suis encore en ballotage, j'irai pas seul, il faut que j'amène mon frère avec moi. À deux, on vivra ça de manière un petit peu plus plaisante. mais bon, je pense que ça va se faire, ça va se faire.
Ouais, c'est fait partie des. C'est vrai qu'après, en plus, hein, c'est vraiment dans l'incertitude. Hein. On est vraiment dans une année où on peut pas dire je vais faire telle course, je peux prévoir telle chose, etc. Je me demande quand même, tu vois, si après dans tes objectifs, finalement, tu te dis, bon, tu parlais que c'était accroché, Berlin fait partie des courses mythiques, des choses comme ça. Est-ce que tu te dis, je sais pas, est-ce que tu dirais, tiens, j'aimerais bien faire l'UTMB, pourquoi pas un jour aller à la Réunion. Enfin, tu vois, tu te dis, tant qu'allonger les distances, finalement. Tu peux aller toucher aussi après ce genre d'événements qui deviennent encore plus mythiques.
Ouais, t'as tout à fait raison. Je m'étais dit que pour mes 40 ans, j'irais faire la Diagonale des Fous. Parce que, effectivement, t'as raison, c'est mythique. C'est mythique et dans la vie d'une personne de trailer, en tout cas de mon point de vue à moi, c'est quelque chose sur lequel il faut aller se frotter. Donc oui, je l'ai dans un coin de ma tête, c'est clair. C'est clair et net. L'UTMB aussi. Même si je voudrais pas tomber dans les énormes courses hyper médiatisées, tout ça, pour autant, ça reste quelque chose d'incroyable à faire et forcément, je suis attiré par ce genre de courses-là aussi. Oui, elles sont au catalogue et je m'alignerai un jour dessus, je l'espère en tout cas.
Voilà, surtout qu'en plus, je pense que les courses que tu avais prévues cette année, ça permettait de gagner des points, donc au niveau des points. Eh ben, ça, c'est un truc qui colle, hein. Donc après, bon, il y a les histoires de tirage au sort, etc. Enfin, il y a toujours ces difficultés-là, hein. C'est que c'est, tu peux te dire, tu sais que si tu t'inscris tous les ans pendant 3 ans, si t'es à chaque fois refusé les 2 premières années, la 3e année, c'est ton tour. Mais, ça veut dire quand même qu'il faut se projeter sur les 3-4 années qui viennent pour préparer ça, et que ça explique aussi. Ce sont des préparations de course qui sont très longues, hein. C'est pas juste la prépa de dire, on va courir 3 mois, telle ou telle manière. C'est que c'est un projet qui est vraiment sur du beaucoup plus long terme pour arriver à, bah déjà, être sélectionné, à pouvoir avoir le droit de courir ces courses-là, mais aussi de pouvoir le faire dans des conditions qui soient vraiment plaisantes et vraiment sympathiques.
Absolument. T'as tout résumé. S'engager sur ces courses-là, ça c'est pas qu'avoir des points et c'est pas qu'avoir la chance d'avoir un tirage au sort, c'est aussi être préparé un minimum physiquement pour qu'on puisse apprécier le moment. Ça m'embêterait beaucoup de m'aligner sur ce genre de course-là et de vivre 30 heures ou 40 heures de calvaire, c'est pas ce que je recherche non plus, quoi. Voilà, il faut quand même y retrouver du positif, de l'envie et qu'on puisse apprécier le moment. Sinon, pas la peine de s'aligner.
Eh ben écoute, c'est une très bonne conclusion, je trouve, de cet épisode. J'ai demandé, mais tu vois, j'ai un peu oublié, si tu avais des coureurs qui t'inspiraient, ou des héros de course qui t'ont inspiré, mais qui peut être de maintenant ou de ta jeunesse, tu vois. Enfin.
Alors, j'ai pas beaucoup de titres historiques. Je suis très très mal renseigné sur l'athlétisme pur, comme sont les pistards qui me font souvent des cours en me disant mais si cette personne-là, elle est mythique et tout. Bon, moi, je suis plus impressionné par des personnes comme Jornet ou Dan, hein, qui sont des personnes assez hallucinantes physiquement, c'est totalement incroyable. Mmh. Et après, quand on est marathonien et qu'on a couru son marathon en 3h45, on peut être que impressionné par Kipchoge ou ce genre d'athlètes-là qui sont capables de faire des marathons à 2h50 de moyenne. Bon, voilà, il faut courir pour comprendre la vitesse à laquelle ils vont. C'est complètement démentiel, mais je trouve ça toujours incroyablement impressionnant. Enfin, moi, ça me sidère.
Ouais, c'est vraiment sidérant, et c'est vrai que tous ceux qui ont essayé de courir à la même vitesse qu'eux, ne serait-ce que un petit peu, hein, comme ça, ont vu à quel point c'était incroyable d'arriver à faire ça, à quel point c'est hallucinant. Nous, moi, j'ai vu s'entraîner aussi un gars qui court le marathon en 2h10, je crois que son meilleur temps c'est. On a l'impression qu'il y a des compas qui avancent à une vitesse, et puis il y a un truc qui, j'en avais parlé avec Charwin dans l'épisode de Altra, c'est l'oscillation. C'est-à-dire que quand moi j'ai l'impression de perdre mon énergie en allant vers le haut, eux ils sont tellement alignés, on a l'impression que le corps et le bas du corps court pas, est vraiment sur une ligne, le haut du corps ne bouge jamais, etc. Et c'est vraiment très impressionnant là-dessus. Et puis Jornet, hein, je sais pas si t'as vu ses séances d'entraînement sur tapis, c'est la vitesse à laquelle il court.
Ouais, et puis en plus, on est en train de se rendre compte que cette personne-là, sur route, est ultra rapide également, puisqu'il a des objectifs aussi. Enfin, il semble s'orienter quand même sur une saison avec des distances bien plus courtes que ce qu'il a l'habitude de faire, mais avec des allures complètement hallucinantes, hein, des 10 ou des semis, bon, voilà, qui viendraient titiller quand même des personnes qui sont adeptes de la discipline, alors que lui, c'est plutôt un montagnard. Moi, c'est complètement hallucinant. Et on parlait tout à l'heure, tu vois, de l'aspect mental des choses, et je revois, dans ma tête, c'est gravé, hein, le visage de Kipchoge quand il arrive. On a du mal à percevoir chez lui de la fatigue physique sur son visage. Mmh. Alors nous, quand on a fini nos marathons, on est marqué, on est cerné, on sait qu'on vient de faire un effort violent. Lui, c'est tout juste si on arrive à percevoir quelque chose. Ils sont capables quand même à un moment donné de se mettre dans des conditions mentales qui font que c'est démentiel.
Ouais, et puis je me dis bon, il arrive quand même un peu shooté aux endorphines aussi à l'arrivée, parce que tu vois l'image quand ces lièvres s'écartent et qu'il lui reste la dernière ligne droite et qu'il est double, on dirait un espèce d'albatros là. Tu te demandes si à la fin il va pas s'envoler. Il accélère sur le dernier kilomètre d'une manière qui est hallucinante. Tu vois, moi rien qu'en parler quand même. Au début j'ai dit ouais, je vais pas regarder ça. Puis je m'étais foutu devant la télé et j'arrivais plus à en décrocher. Tu vois, mais vraiment, et puis ce truc là, tu te dis, on dirait du cinéma. On dirait du cinéma, et qui va s'envoler, et ces images là où il s'écarte, où d'un coup je sais pas ce qui était prévu, tu vois, dans son truc, si c'est lui qui accélère ou si c'est comment ça s'est passé, mais je trouve que cette image, elle est juste hallucinante, en fait. On peut dire oui, il a couru, il avait des lièvres, il avait un signal, etc. Oui. Putain, il faut le faire, quoi.
Bah, on peut remettre en question toute l'organisation, les conditions parfaites et tout. On pourra jamais lui enlever le fait que cette personne-là a couru à 2,50 de moyenne, quoi. Enfin, on peut trouver plein de choses. On ne peut que admirer le sportif qu'il est, complet. Et puis cette personne-là à Berlin a aussi fait des temps incroyables. Donc voilà, il vient pas de nulle part. Chapeau.
Ouais, et puis il a un palmarès, hein, sur piste, toutes les distances. Il a fait toutes les distances, il a tout gagné de toute façon. Il a un palmarès qui est juste extraordinaire sur toutes les distances. Donc c'est pas juste mec comme ça qui s'aligne avec des baskets à carbone, avec des moteurs, où on peut dire tout ce qu'on veut. Non, c'est pas illogique que ce soit lui qui soit allé le chercher. Il y avait une préparation de plusieurs années, il y avait beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites, et donc c'est aussi assez logique que finalement soit lui qui soit allé taper et qu'il va se faire battre dans pas longtemps, parce qu'il y en a d'autres qui courent.
Ouais, c'est sûr.
Qui ont vu que c'était possible, que la barrière était possible, et maintenant qu'on sait que c'est du domaine du possible, et ben on peut se dire que d'autres iront essayer d'aller le chercher. Moi, je prends le pari, hein, on verra bien. On l'a vu que certains sur des courses, hein, Berlin notamment, qui est la course très rapide, il y en a qui n'étaient pas si loin que ça, même sur des courses classiques, alors va savoir.
C'est ça, c'est ça. Et ça tombera peut-être à Berlin 2021, du coup.
Et moi, j'avais rigolé parce que l'an dernier, c'était l'an dernier, j'ai un copain du club qui a fait Berlin et je lui dis, il y avait le record du monde qui avait été battu cette année-là. Ah, dis donc, t'as battu le record du monde, t'as couru dans la course où il y a le record du monde qui a été battu. Il me dit, ouais, il me dit, c'est une sacrée fierté. Et alors, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit quand même, il n'y a pas beaucoup de sports, tu vois, où tu peux t'aligner dans la course où t'as le record du monde qui est battu. Enfin, cite-moi un autre sport où tu peux te dire, j'ai couru avec le mec. Alors, est-ce que tu peux te dire que t'as couru avec lui? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, t'étais dans la même course que le gars.
Bon, t'es pas parti qu'il est arrivé, mais...
Voilà. Je trouve quand même, tu vois, c'est sur l'image. Et lui, je crois même que c'était un petit peu un truc de... Tu vois, il a rigolé, mais un peu de fierté, tu vois, de dire « Oui, effectivement, j'ai aussi fait partie de cette course-là. » Et je trouve que la course fait partie aussi de ces... on court pas à la même vitesse, on a tous des manières de courir différentes, des gestuelles, etc. Mais au final, quand même... On peut arriver à courir, à participer à des mêmes courses, etc. Et il se pourrait qu'un jour, tu puisses prendre le départ et avoir Jornet à côté de toi, même si vous n'avez pas couru à la même vitesse, mais qui serait là, en fait, tout
absolument.
Simplement, et qui s'est aligné.
J'avais tenté une inscription pour la Zegama, hein, c'est une course trail, c'est terre, hein, il est là-bas, et lui, chaque année, il est présent. Et effectivement, alors il faut avoir beaucoup de chance au tirage, hein, c'est toujours pareil, mais tu peux effectivement t'aligner avec lui sans aucun problème, ou sur l'UTMB, ça s'est vu hein, aussi. Effectivement, c'est à l'âme des personnes en plus hyper accessibles, donc c'est vrai que c'est sympa. Je trouve que ça rend le sport populaire, et c'est très très agréable, je trouve.
Et ben voilà, et ben écoute, cette fois-ci, on va vraiment conclure. Tu vois, ben on a tenu une belle sortie longue, tranquillement, on est autour de 1 heure, on a discuté un petit peu, en mon enregistrement, on a 1h20, mais il y a un bout qui va être coupé au départ. Donc, on vous a tenu le coup d'une sortie longue, parce qu'il y en a certains qui me disent, ouais, il y a des épisodes qui sont trop courts et tout, ça me tient pas ma sortie longue. Et ben là, grâce à toi, Thibaut, on a réussi à faire une sortie longue, tu vois. Comme ça, ça tient une belle sortie longue. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part, Instagram, Strava ou des choses comme ça, pour suivre un petit peu les choses que tu peux faire?
Écoute, oui, principalement sur Instagram, Thibaut Valla ou Strava. Thibaut Valla aussi. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. Et je suis également sur Facebook, principalement dans ton groupe, Kilomètre 42. Et j'essaie d'interagir de temps en temps quand il y a des questions. Il n'y en avait pas plus tard qu'hier. Voilà, on peut avoir des échanges sur des choses intéressantes. C'est toujours agréable. Vous pouvez me retrouver aussi si vous avez des questions. Vous n'hésitez surtout pas.
Oui, et puis je le dis hein, dans le groupe, hein, le but du jeu, c'est d'avoir une bonne ambiance. Parce que moi, j'ai quitté plein de groupes de marathoniens, etc., où dès qu'il y a un mec qui mettait une question, il se faisait rabrouer par les... par dire « bah oui, on a déjà répondu 10 fois, etc., et autres. » Bon, voilà. Pour le débutant, il y a des questions qui semblent incroyablement compliquées à résoudre et qui sont très simples à résoudre pour des gens qui courent depuis très longtemps. Et vraiment, le but du jeu, c'est vraiment d'aider les gens à dire bah, « tiens, je veux courir, je veux découvrir des nouvelles distances, etc. » Il y en a certains hein, qui écoutent le podcast et qui sont devenus marathoniens il n'y a pas très longtemps. Il y en a d'autres qui ont perdu du poids. Il y en a d'autres qui se sont lancés dans des courses. Il y a plein de gens. On est plein, parce qu'il y a des centaines de personnes qui écoutent les épisodes. Donc, on est plein là-dedans. On est tous réunis par un truc, c'est que finalement, on se trouve mieux avec des baskets aux pieds. Et tu l'as très bien dit, hein, ce moment de se retrouver, soi, etc. Il y a plein de raisons qui le font. Et en tout cas, c'était super sympa de discuter avec toi.
Ouais,
j'ai toujours pas trouvé le nom de l'épisode. On va appeler ça que c'était... On peut pas appeler ça la binouze d'après-course, mais c'était un petit peu...
Et pourtant, elle est tellement bonne.
Ouais, un petit peu, le truc. On aurait pu se demander si finalement, c'était ça aider la récup ou pas, parce que c'est toujours le débat, l'éternel débat, est-ce qu'il faut du houblon après la course ou pas, est-ce que ça aide la récup, chacun est tranché là-dessus, et en tout cas je te remercie beaucoup pour ces récits, pour ces aventures, pour tout ça.
Merci.
Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.